Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Un grand bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous, ravi de vous retrouver comme chaque soir, 2 heures de tech sur BFM Business. Bienvenue dans Tech & Co en ce jeudi soir avec au sommaire de ce Tech & Co, avant le débrief de l'actu tech tout à l'heure. Eh bien, tiens, vous êtes un fan de tennis, à l'approche de Roland-Garros, vous voulez améliorer votre coup droit, un coach de tennis virtuel avec Tennis & Go. On recevra le fondateur de cette start-up dans quelques instants. Anniversaire un peu plus sérieux, c'est les 5 ans du RGPD et on reviendra en fait sur... Eh bien, tout cet accompagnement qui est là pour en fait protéger notre vie privée sur Internet. On fera le bilan. Et puis, je vous le disais, il y a un instant, entre 21h et 22h, ce sera le débrief de l'actu tech. Pendant une heure, on reviendra sur les sujets que vous connaissez actuellement et qu'on évoquera. On prendra le temps d'y revenir avec Jean de Chambure, Claudia Cohen, Frédéric Bianchi et Bruno Guglielminetti, notre ami du Québec qui sera là en visio. On parlera donc évidemment de TikTok, d'IA et de plein d'autres sujets. Vous serez là, vous êtes avec nous ce soir. Vous faites bien. Bienvenue en tous les cas. C'est parti pour Tech & Co.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Et avant d'attaquer l'actu tech de ce jeudi soir, un mot sur votre soirée de demain sur BFM Business, puisque à partir de 21h30, exceptionnellement, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain vendredi soir pour la grande cérémonie des Tech for Good Awards. Ce sera la 5e édition. Un rendez-vous qu'on prépare avec beaucoup de passion, puisque demain, nous allons récompenser les meilleures startups qui œuvrent pour la planète, hein, voilà, dans différentes catégories. Une soirée que je co-présenterai avec Frédéric Mazzella. Notre parrain sera Bertrand Piccard. Vous savez, cet incroyable explorateur, hein, fondateur du projet Solar Impulse, et ce sera donc au Grand Palais Éphémère, un lieu en plus incroyable à l'occasion de Change Now, demain soir donc à partir de 21h30, une soirée à ne pas rater. Frédéric Bianchi est avec nous, bonsoir Fred.
Bonsoir.
L'actu de ce jour donc dans Tech & Co avec Nvidia qui non seulement se porte bien, mais je dirais même se porte très bien.
Ouais, tu aurais dû acheter des actions Nvidia hier, hein.
Ouais, je pense, ouais.
On est là, alors bon, on se parle, on regarde en direct, on est à plus 26%.
Plus 26%
de l'action, et même ces actions, il fallait pas les acheter hier, il fallait les acheter en fin d'année dernière, parce que depuis le début de l'année, on est à plus 160% du cours de l'action. Plus 160%, on parle pas d'une petite start-up, on parle d'une entreprise qui valait déjà près de 400 milliards de dollars en fin d'année dernière, et qui en vaut donc aujourd'hui 950 milliards. C'est la 5e entreprise la plus valorisée au monde, au moment où on se parle, derrière Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon. Et donc, le dernier, c'est Nvidia.
Ils font partie de la cour des grands.
Californienne qui rentre de plein pied dans la cour des grands, dans la cour des très grands même. Alors, pourquoi ce bond aujourd'hui de 26-27%? Bien parce qu'ils ont présenté, ils ont dévoilé leurs résultats hier. Alors, les résultats sont plutôt moins bons que ceux du trimestre précédent, mais c'était prévu. Mais ils sont plutôt meilleurs que ce qu'avaient anticipé les analystes. Et surtout, ils ont des possibilités de croissance colossales. On rappelle, Nvidia, ils fabriquent des cartes graphiques, notamment. Or, ces cartes graphiques, elles servent à quoi? À alimenter les data centers qui font tourner les IA, les intelligences artificielles, ouais, les ChatGPT et les Bard. Donc, fatalement, il y a moment, tout le moment, monde c'est... se précipite sur...
Il fallait miser là-dessus.
Exactement, oui. Sur les cartes graphiques Nvidia, hein, le modèle A100, par exemple, eh ben, il a un carnet de commandes long comme le bras, hein. Microsoft, Google, toutes les entreprises de la Silicon Valley se bousculent au portillon, hein, pour acheter, eh bien, ces cartes graphiques, hein, pour monter les data centers, pour utiliser cette intelligence artificielle générative. Hein. On sait qu'ils utilisent, eh bien, plutôt des cartes graphiques, eh bien, pour faire tourner leur logiciel. Donc, dans ce contexte-là, eh bien, Nvidia est très, très optimiste pour l'avenir, parce que les résultats un peu en retrait du premier trimestre, eh bien, sont dus au marché du jeu vidéo, hein, le marché du jeu vidéo qui était le premier marché pour Nvidia, mais qui va devenir le deuxième. Le marché du jeu vidéo a reculé de 38% au premier trimestre, donc un peu moins de commandes. En revanche, eh bien, ce nouveau marché des data centers lui progresse de 13% en un an, et Nvidia prévoit une croissance de son chiffre d'affaires sur la fin de l'année de 60% dans les mois qui viennent. Donc fatalement, eh bien, quand on donne ces chiffres-là, plus 60%, les investisseurs, ils adorent, ils achètent en masse Nvidia. Ouais. On ne cesse de parler d'IA générative. Eh bien, c'est Nvidia, en fait, les muscles, les petites chevilles ouvrières qui sont derrière nos ChatGPT, nos Bard. Donc Nvidia, actuellement, en super forme, elle a peut-être dépassé les 1000 milliards de dollars de capitalisation.
Quand on pense qu'il y a encore quelques années, Nvidia se cantonnait au marché des cartes graphiques de jeux vidéo.
Exactement, oui. Un marché florissant, mais.
Un marché florissant, mais. J'allais dire de niche. Oui. Après, ils ont passé des accords avec les consoliers, hein, bien sûr. Mais bon, voilà, c'était un petit marché par rapport à celui d'aujourd'hui avec l'IA. Ils ont toujours surfé sur les tendances. Rappelle-toi, l'année dernière, on se servait de la puissance de calcul de Nvidia pour miner, en fait, des crypto-monnaies.
Exactement, oui, aussi.
Toujours été dans le mood au moment où il fallait. Et puis aussi, surtout, il y a le marché immense de la voiture connectée et autonome. Et Nvidia est sur ce marché-là.
Dès qu'il y a un nouveau marché qui s'ouvre,
ils sont dedans. De la puissance de calcul. Incroyable.
C'est l'anniversaire d'Nvidia, d'ailleurs, qui fête ce mois-ci ses 30 ans. Bah, c'est un anniversaire heureux.
Je pense que là, ils vont pouvoir souffler des bougies et ouvrir quelques sabrés, même quelques bouteilles de champagne. À consommer toujours avec modération, bien sûr. Tiens, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, bonne nouvelle. Si vous êtes un adepte de ChatGPT, dorénavant, ChatGPT. Eh bien, c'est sur iPhone.
C'est sur iPhone, exactement. Depuis ce 25 mai. Alors, ChatGPT était accessible avec Bing, déjà, on le sait, donc sur l'application Bing sur iPhone et sur Android, mais dorénavant, à partir de ce 25 mai, et une semaine seulement après la sortie de l'application aux États-Unis, eh bien, l'application ChatGPT est lancée en France. Alors, pour le moment, c'est simplement sur les produits Apple, sur iPhone ou tablette. Dans le second temps, on pense que la version Android arrivera. En revanche, on a essayé d'aller la chercher dans le store d'applications.
Et ça, c'est la galère.
C'est pas facile du tout, parce qu'évidemment, eh bien, depuis que ChatGPT a rencontre un tel succès, que ce soit médiatique ou d'utilisateur, eh bien, il y a de nombreux petits malins qui ont lancé des fausses applis, eh bien, qui reprennent des termes, hein. Donc, on trouve OpenAI, ChatGPT, OpenAI, ChatGPT. Donc, la marque n'a peut-être pas été déposée. En tout cas, voilà, on trouve plein d'applications parasites qui empêche, pour le moment, en tout cas dans l'après-midi, on a encore essayé, eh bien, d'accéder directement à ChatGPT. Alors, il faut se méfier toujours, hein, de ces applications-là. Pour trouver l'application, il faut aller dans le classement des applications gratuites les plus téléchargées. Ouais. Au moins, on est sûr que ce sera la bonne.
Je suis en train de regarder justement pour vous donner
c'est la bonne dans le top 10. Je crois qu'elle est quatrième aujourd'hui. On trouve l'application officielle ChatGPT, hein, pour avoir cette IA conversationnelle, pour discuter, voilà, pour tester l'appli. Donc, allez plutôt là que sur ces fausses applications qui, une fois téléchargées, vous demanderont évidemment de sortir la carte bancaire, parce que ce sont évidemment des petits malins. Alors, ce ne seront pas forcément du phishing, hein, mais c'est vrai qu'on va vous demander de payer pour utiliser ce service-là. On rappelle, ChatGPT, c'est 4 milliards de visites, en tout cas sur ordinateur pour le moment, depuis le début de l'année. Et on peut penser qu'avec leur arrivée sur iPhone, ça va encore booster leur utilisation.
Ouais, je l'ai téléchargé ce matin et je m'amusais justement, parce que couplé à l'assistant vocal Siri, c'est redoutable. Ouais. C'est-à-dire que là, tu n'as même plus à écrire, en fait, ton prompt, ta requête.
Exactement.
Tu la dictes, tu appuies sur OK et paf.
C'est lui qui fera nos chroniques télé quand on lui demande.
Mais c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on parle à ChatGPT, mais demain, il va nous parler.
Il va nous parler bientôt.
La réponse, elle est écrite, mais demain, elle sera forcément vocale. Elle doit l'être, d'ailleurs, sans doute.
Mais c'est pas le plus difficile, a priori, au point de vue technologique, de lire un texte.
Non, non. Non, c'est d'ailleurs étonnant que ça ne se soit pas encore arrivé. Dans l'actu aussi, on va parler des télécoms maintenant, Fred. Le pic des investissements des opérateurs est peut-être passé. C'est ce que révèle le bilan annuel de l'ARCEP, publié ce matin. Et dans le même temps, les revenus des opérateurs continuent, eux, de progresser. On écoute ce reportage de Raphaël Couder et on revient juste après avec Frédéric.
14,6 milliards d'euros ont été investis par les opérateurs l'année dernière, un montant certes très élevé, mais légèrement en baisse pour la première fois depuis presque 10 ans. Les dépenses des entreprises du secteur proviennent toujours principalement du déploiement de la fibre et des antennes 5G, et ces efforts portent leurs fruits. Les abonnements à la fibre optique progressent encore de 11 points en un an, et ils sont désormais majoritaires pour la première fois sur l'ensemble des abonnements à Internet. La 5G continue elle aussi de se développer, avec désormais 10% des cartes SIM utilisées sur ce réseau. Dans le même temps, les revenus des opérateurs progressent pour la deuxième année consécutive. Ils ont atteint près de 37 milliards d'euros l'an dernier, soit une hausse de 2%. Cette croissance est entièrement portée par le marché mobile, précise l'ARCEP, et notamment la vente de smartphones dont les revenus augmentent de 5% en un an.
Voilà, Raphaël Couder pour ce petit focus sur le pic des investissements des opérateurs qui est peut-être passé, Fred.
Oui.
Tout ça est lié aussi, on le disait au très haut débit, à la 5G.
La 5G, oui, surtout, les opérateurs investissent énormément, toujours, pour déployer ce réseau 5G qui n'est pas aussi important encore que le réseau 4G. Sauf qu'il y a quand même un petit caillou dans la chaussure un petit peu des opérateurs, c'est que les abonnements ne suivent pas. Alors, ils sont en progression, heureusement. Il y avait 3 millions d'utilisateurs à la 5G en France, d'abonnés 5G fin 2021. Aujourd'hui, on est à 8,2 millions, c'est-à-dire qu'en 2 ans, on a gagné, donc il y a eu 8 millions, un peu plus de 8 millions de Français qui sont abonnés à la 5G. On est allé regarder un petit peu ce qui se passait au moment de la 4G, entre 2014 et 2017, dans les premières années, on était à 10 millions d'abonnés par an. Là, on est à 8 millions sur 2 ans. On voit que ça peine toujours à décoller. Toujours les mêmes raisons, les usages, qu'est-ce que je peux faire de, voilà, la 4G.
Ça sert à quoi, la 5G,
la 4G
sur un
aujourd'hui
smartphone.
Suffit largement pour les usages smartphones. Oui. Alors on sait que la 5G va servir pour les entreprises, pour certaines industries, pour certains outils connectés comme les automobiles. Mais c'est vrai que pour le moment, le grand public, il peine toujours à voir un petit peu ce que ça va lui apporter, sachant que les abonnements 5G sont quand même un peu plus chers.
Oui. En effet, même si la bataille des abonnements, on va dire low cost, est en train de repartir, on se retrouve là en ce moment, il y a des bons plans à faire, aux alentours des 10 euros, on peut avoir 100 gigas chez SFR ou Bouygues notamment. Merci beaucoup Fred, on se retrouve tout à l'heure Frédéric, avec beaucoup de plaisir. Frédéric fera partie de notre équipe de débriefeurs entre 21h et 22h, avec Jean de Chambure ce soir, Claudia Cohen du Figaro et Bruno Gogli-Eminetti, qui est un spécialiste des médias numériques et qui sera avec nous en visio depuis le Québec. Voilà, vous savez tout. Ce sera à partir de 21h, le débrief de l'actu tech. Et vous restez là. Dans un instant, on va parler MedTech avec Pixee Medical, qui a inventé en fait des lunettes de réalité augmentée pour des opérations. Incroyable. Et puis juste après, à quelques jours de Roland-Garros, on verra comment le numérique peut vous aider à progresser au tennis grâce à un coach virtuel. Vous restez avec nous. Tech & Co revient dans un instant. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Le retour de Tech & Co sur BFM Business. Pour bien jouer au tennis, il faut avoir de bons genoux. Et pour avoir de bons genoux, parfois on est obligé de passer sur le billard. Vous savez que la chirurgie orthopédique, c'est un marché colossal, 50 milliards de dollars. Il faut savoir que 100 000 prothèses totales du genou sont installé, j'allais dire, par an.
Par an en France.
Par an en France, rien qu'en France.
2 500 000 dans le monde.
C'est incroyable. 800 000 aux USA, 300 000 en Inde, 1 million d'ici 5 ans. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est un confort incroyable, parce que quand on vieillit, on commence à avoir des problèmes de genoux, c'est bien connu. Et là, on peut réparer tout ça. Bonsoir Sébastien Henry.
Bonsoir François.
Vous êtes donc le PDG de Pixee Medical. Alors on va parler de chirurgie orthopédique avec votre solution très innovante. Vous avez mis au point une espèce, si j'ai bien compris, un système de navigation un peu comme un GPS, un Waze, pour guider les chirurgiens en temps réel lorsqu'ils opèrent. C'est
tout
ça?
Tout à fait. On les guide à naviguer l'anatomie du patient. Ils cherchent à, pour la prothèse de genou, par exemple, à réaxer la jambe. Nous, on va les aider. On va leur donner des informations en temps réel à l'aide d'outils ultra simples. Économique, on est dans des systèmes de santé qui sont de plus en plus contraints, donc nous on sort de la technologie abordable.
Alors racontez-nous, parce que là si vous êtes à la télé, on voit quelques images donc d'un genou, c'est un genou ça.
C'est un genou. On va placer des capteurs sur les os. Alors ça c'est l'avantage de la chirurgie du ostéo-articulaire. On a des os sur lesquels on peut venir fixer des références. Alors j'en ai amené une avec moi. C'est quelque chose de très simple. C'est des capteurs réutilisables qu'on a développés à Besançon. C'est une technologie unique.
Attendez, mais ça, ce truc-là, on le met où?
On le fixe sur l'os.
Donc c'est pendant l'opération?
Pendant l'opération. On ouvre, c'est une chirurgie où on va remplacer une articulation qui est endommagée par une articulation artificielle.
D'accord.
Donc si le genou n'est pas aligné à plus de 3 degrés, à moins de 3 degrés d'écart, on aura des mauvais résultats. Nous, on va le guider au degré, au sub-degré, au sub-millimètre. Et ça, avec une technologie qui est ultra simple. C'est une paire de lunettes de réalité augmentée. On parle beaucoup de robotique aujourd'hui. Ces solutions
que vous avez en main, c'est pas une paire de lunettes, c'est quoi ça?
C'est une lunette. C'est une lunette de réalité augmentée.
Ah oui, d'accord. C'est donc, pas une paire de lunettes.
Non, c'est une espèce
de. C'est une lunette.
C'est une lunette. C'est la même technologie que notre smartphone.
Donc le chirurgien accroche ça.
Il accroche ça. Il a un bandeau. Il accroche ça à ses lunettes.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il voit alors?
Il commence son opération. Il ouvre comme d'habitude. Alors ce qui est important, c'est qu'on change pas la façon dont le chirurgien fait sa chirurgie.
Okay.
La robotique, souvent, ajoute du temps, ajoute des coûts, mais aussi change la façon dont le chirurgien va utiliser le système. Nous, on va juste le guider. C'est comme votre GPS. Waze va vous dire le meilleur trajet, il y a du trafic, et on va donner cette information-là de manière ultra simple.
Donc, bon, il n'y a pas des embouteillages dans le genou, rassurez-moi.
Pas encore. Il y a un embouteillage dans les salles d'attente des hôpitaux. Post-Covid, les patients ont dû attendre, et aujourd'hui, on se trouve un afflux. Donc, il faut les traiter de la meilleure manière, de la manière la plus précise, avec ces solutions sur l'étagère. Donc c'est la caméra, il y a une caméra, c'est pensez à votre smartphone, c'est la même technologie. La caméra va repérer ce capteur, l'ordinateur qui est dans la branche va faire les calculs, et il a toutes les informations qui s'affichent dans son champ de vision.
Et alors, quel type d'informations apparaissent en fait dans son champ de vision ?
C'est des axes, c'est des informations head-up display, comme on appelle. On voit des informations angulaires, millimétriques. Ça, c'est la première génération. La deuxième génération qui arrive, on est carrément dans le super-héros. C'est, nous, ce qu'on veut, c'est le chirurgien augmenté. On a souvent parlé du chirurgien qui était l'assistant du robot. Nous, c'est le chirurgien augmenté. On va lui offrir des super-pouvoirs. Avec lunettes, il va voir à travers la peau.
Je ne sais pas s'il pourra mettre une cape quand même pendant qu'il...
Il a sa blouse.
Il opère.
Il a sa blouse. Il va voir à travers la peau, il va voir à travers l'os. C'est ça qui est important.
Avant donc l'opération.
Pendant l'opération. On va lui offrir ce super pouvoir de voir à travers.
Donc, vous faites ça ?
Alors, on part à partir d'un scanner. Le scanner, on reconstruit un modèle en trois dimensions. Ce modèle en trois dimensions, on vient le recaler sur l'os. Ensuite, Au millimètre près.
C'est-à-dire que, pour qu'on comprenne bien, hein, on a scanné le genou, donc on a tout l'intérieur du genou en détail en 3D. Ok. Là, vous entrez toutes ces informations dans votre lunette, et à partir du moment où l'opération débute, le chirurgien va voir l'intérieur du genou grâce au scanner qui a été préalablement réalisé.
Ouais, tout à fait. Actuellement, on a une solution de chirurgie pour l'épaule qui intègre déjà cette technologie-là. Elle est actuellement en cours d'approbation par la FDA américaine et aussi en marquage CE en Europe. On est soumis quand même à des questions réglementaires et à travers ça, on est dans ce processus de qualification.
L'intérêt, pour qu'on comprenne bien, parce que aujourd'hui, la plupart des opérations du genou se passent très bien sans votre système.
Alors, il y a un quart des genoux qui ne sont pas en résultat final dans cet intervalle de confiance de plus ou moins 3 degrés sur l'axe. Un quart des genoux, si on considère le nombre de genoux.
Alors, ça ne veut pas dire. C'est quoi ?
Alors,
c'est des complications.
C'est une usure prématurée, une prothèse. On a quand même des technologies qui sont bien au point. On a des bons chirurgiens. Ce qu'il y a, c'est qu'on a des incisions de plus en plus petites. On parle de chirurgie minimale invasive. Donc le chirurgien n'a plus de repères visuels. Donc nous, on lui apporte cette augmentation des informations à l'intérieur d'une plus petite incision. On est aussi dans des chirurgies minimales invasives en ambulatoire. Donc il faut protéger les pertes sanguines liées à la chirurgie traditionnelle. Les problèmes de la chirurgie traditionnelle, c'est pas seulement de l'orientation, c'est aussi la question du rétrécissement de l'espace disponible pour le chirurgien.
Oui, pour qu'il y ait une récupération qui soit plus rapide.
Exactement,
c'est toujours
pareil, hein, tout
c'est
à fait.
Il y ait moins de conséquences post-opératoires. Petite question, est-ce qu'avec votre équipement, donc on va descendre à moins de 25%
on est à plus de 95% de l'alignement.
Donc il n'y a plus que 5% de
on va dire outlier, on va dire.
Voilà. Ouais. Mais est-ce que ça permet aussi d'opérer plus vite pour le chirurgien ?
Alors ça c'est très important. Une chirurgie de genou en moyenne c'est une heure. Avec un robot, ça peut durer une heure et demie. Une heure et demie, ça veut dire qu'on va avoir une anesthésie plus longue, des pertes sanguines plus longues, donc une récupération qui va être moins bonne. Notre chirurgie est un quart d'heure de moins qu'une chirurgie robotisée. Donc on gagne du temps.
Et donc c'est une heure et quart.
C'est une heure et quart à peu près. On a des chirurgiens qui ont déjà réduit à une heure. Aux États-Unis, on a développé aux États-Unis, hein, ça je tiens à signaler, on a des chirurgiens qui font déjà leur chirurgie en une heure.
D'accord.
Et les patients sortent dans la journée. C'est ce qu'on appelle de la chirurgie ambulatoire. Le patient, moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, le patient restait 9 jours au bloc opératoire. Aujourd'hui, avec les progrès.
Il restait pas 9 jours au bloc opératoire, il restait 9 jours à la clinique.
9 jours à la clinique.
Parce que 9 jours au bloc opératoire, ça fait un peu long.
Aujourd'hui, la moyenne, c'est à peu près 3 heures. Dans certains cas, avec une vraie sélection des patients, on peut rentrer le matin, sortir l'après-midi. On a ce qu'on appelle de l'ambulatoire. Et ça, c'est grâce à des technologies moins invasives auxquelles on participe.
Incroyable. Évidemment, ça a un coût. Tout ça, mais quel est le bénéfice pour le chirurgien ?
Alors pour le chirurgien,
Une
efficacité. Alors aux États-Unis, vous savez qu'il y a beaucoup de procès. La litigation, comme ils les appellent, on les aide aussi à se protéger par rapport à ça.
D'accord.
On a aussi un coût qui est largement moindre qu'un robot. Un robot de chirurgie orthopédique, c'est à peu près 1,5 million.
Parce que le robot corrige aussi tous ses défauts.
Le robot, c'est plus gros. mais d'accord. Sur l'alignement, ça donne les mêmes résultats.
Ok, d'accord.
Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé du produit sur l'étagère, la même technologie du smartphone, et aujourd'hui, on n'est qu'à la première génération. Ce qui est vraiment important, c'est la connectivité qui va arriver avec les générations où on aura, dès l'année prochaine, la 5G intégrée dans nos lunettes.
Incroyable. Et vous en êtes où ? Tout ça est disponible déjà ? Les chirurgiens peuvent s'en servir ?
On a fait plus de 4000 chirurgies
d'accord.
Partout dans le monde. On n'est pas qu'une société française, c'est ouais. basé à Besançon, 42 salariés, créé ouais. il y a 5 ans. On a démarré aux États-Unis au trimestre l'année dernière.
Donc avec la fameuse FDA.
FDA enfin, approved.
Bien sûr.
Et là, incroyable, l'année dernière, moi je pensais qu'on vendait que des rafales en Inde. On a fait 10 chirurgies en Inde la semaine dernière. Et comme je vous l'ai dit, ce marché, c'est 300 000 prothèses cette année, c'est 1 million dans 5 ans.
Incroyable.
Et c'est les Indiens qui sont venus nous chercher, ils ont dit, Sébastien, on a besoin de solutions efficaces. On a essayé le robot. Et ta solution, c'est la solution qu'il nous faut pour le futur.
Bravo Sébastien Henry, PDG de Pixi Medical. Donc merci d'être venu
merci
depuis
François.
Besançon. Et avec une prothèse du genou, on peut jouer au tennis après ?
Je pense pas que ça soit recommandé. On fait de la marche, on peut faire du vélo, du tennis. Bah peut-être avec l'application de monsieur, je sais pas si
je sais
s'entraîne
pas.
Bien.
Ouais. Donc ma transition tombe un peu à l'eau, mais c'est pas grave. Bonsoir Rafid Djebari.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur et président de Tennis & Go, qui est un coach de tennis virtuel. Et votre démarche est très intéressante parce qu'il y a de la technologie et plein d'autres choses aussi. Expliquez-nous ce qu'est Tennis & Go.
Alors, Tennis & Go, c'est une solution digitale d'entraînement pour les joueuses et joueurs de tennis qui ont envie de progresser et qui quand ils sont sur le court, ne savent pas quoi faire. Donc,
si on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on est un peu fatigué. Il faut taper dans la balle, non ?
Bah, faut taper dans la balle, mais en
quoi final... faire dans le enfin la stratégie, le positionnement.
Par exemple, quand on est avec un coach de tennis, on a des séances toutes les semaines, mais entre deux séances, on va jouer avec des amis et au final, on refait toujours les mêmes séquences de jeu. C'est-à-dire, on va faire des points, on va faire des matchs, on va faire un peu d'échauffement et les joueurs étaient en recherche. De justement comment on peut construire et optimiser ses séances d'entraînement quand on n'a pas son coach en permanence avec soi ou tout simplement quand on n'a pas de coach. Et c'est là où on vient apporter cette solution pour les joueurs de tennis, hein, donc avec une application mobile qui comprend des exercices qu'on a tous, enfin tous les exercices ont été modélisés en 3D,
d'accord.
justement pour faciliter la compréhension de l'exercice une fois sur le court et ne pas faire en sorte que le joueur ait à regarder une vidéo de 3-4 minutes pour comprendre ce qu'il faut faire.
Excusez-moi, je vous coupe, mais ça veut dire que c'est un coach avant l'entraînement ? C'est-à-dire que ça, par exemple, j'arrive sur le court, je regarde les vidéos et après je joue parce que je me souviens de ce que j'ai vu. Parce que c'est vrai que c'est pas facile d'avoir un téléphone pendant qu'on joue, quoi.
C'est sûr que c'est pas facile. Et là,
surtout pour l'écran du téléphone, parce que si ça tombe.
C'est ça. Mais là, l'idée, c'est vraiment qu'avec l'application mobile, en fait, on peut créer sa séance d'entraînement.
Oui.
Donc, par exemple, on va choisir de la préparation physique, de la tactique, du mental. Donc, on va construire sa séance avant sa séance d'entraînement.
D'accord.
Avec l'application et derrière, on va avoir ces exercices, ces vidéos en 3D, et on va répliquer en fait sur le court l'exercice. Donc on a des conseils, on a des temps qui sont donnés pour par exemple un exercice de gainage. Mm-hmm. Donc on va avoir un nombre de séries avec un temps pour chaque série et du temps de récupération. Et justement par rapport à ce que vous disiez, ce temps de récupération, il permet à la fois de s'hydrater parce que c'est important surtout quand on est en match. C'est beaucoup plus simple d'aller prendre de l'eau, de se reposer, etc. entre chaque jeu de service, par exemple.
Alors on a combien une ou deux minutes, non ?
C'est oui, c'est entre chaque changement, on a une minute trente.
Oui, c'est ça.
Sauf qu'en entraînement, on ne le fait pas. Ou on le fait peu. Et donc là,
on profite de ce temps-là.
On profite de ce temps-là pour récupérer, s'hydrater et regarder l'exercice suivant. Et ensuite, on repart sur le court et on lance le nouvel exercice.
Alors évidemment, ça ne se substitue pas, j'imagine. Après, vous allez peut-être pouvoir me corriger, mais un vrai coach qui sera avec nous sur le terrain et qui déjà va pouvoir jouer avec nous, parce que là, le smartphone ne joue pas avec nous. Hein. Il faut qu'on ait quelqu'un en face, malgré tout.
Alors, ça dépend les types de programmes. Si on fait de la préparation physique, si on fait du mental, par exemple.
Oui, on n'a pas besoin de... On peut le faire tout seul.
Exactement, on peut être autonome. Mais pour les exercices de tactique, d'intention de jeu, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un adversaire en face.
C'est clair.
Et effectivement, on ne se substitue pas du tout au coach. Et ce n'est pas notre rôle. D'ailleurs, on a construit les exercices, les programmes avec des coachs. Ouais. Et nous, notre idée, c'est vraiment un peu comme un after coach. C'est-à-dire, encore une fois, quand on a un coach, hein, il y a, tout le monde n'a pas de coach, mais c'est comme ça que l'idée est venue. C'est parce qu'on faisait des séances d'entraînement, enfin entre deux séances. Finalement, entre les deux, on perdait les acquis du coach parce qu'on s'entraînait. Enfin, on ne travaillait pas ce qu'on venait de...
Oui, c'est un peu une appli de révision, finalement, entre deux cours, on va dire, physiques réels.
C'est ça, c'est exactement ça.
Après, c'est vrai que le tennis est souvent perçu comme un sport élitiste, parfois, à juste titre, hein, ça peut être cher, le tennis. Pas forcément très cher, mais bon, après, il faut trouver...
Ça se démocratise.
Ça se démocratise, en effet. Et donc là, on peut assouvir sa passion sans trop se ruiner aussi, accessoirement.
C'est aussi le. C'est vrai que quand on veut vraiment progresser et on a des objectifs, d'ailleurs peu importe qu'ils soient élevés ou pas, c'est sûr que le tennis déjà en termes de matériel, en termes d'adhésion, ça a un certain coût. Et après il y a aussi toute la partie coaching pour progresser. Donc c'est sûr que tout ça accumulé, ça peut faire des coûts. Et c'est aussi notre objectif, c'est d'apporter des solutions qui soient
oui, accessible
à tout joueur, tout joueur de tennis.
Alors, c'est sur smartphone ?
C'est sur smartphone.
Android iOS.
Et iOS.
D'accord.
iOS et dans l'application, on retrouve à la fois la performance, donc les entraînements, le suivi. Donc là aussi, c'est la première application où on va avoir des statistiques pour les joueurs basées sur leurs entraînements et une communauté, parce que
comment vous les récupérez, ces statistiques ?
En fait, c'est en fonction, aujourd'hui, c'est en fonction des entraînements que les joueurs font. Donc, ils vont personnaliser, en fait, leur. On va évaluer leur niveau avec eux dans l'application.
D'accord.
Et ensuite, on va voir comment ils s'entraînent. Il y a du machine learning dans l'application pour justement voir comment ils s'entraînent. Et derrière, leur proposer justement les contenus et les statistiques. Pour qu'ils puissent s'adapter, en fait, c'est de rendre autonome le joueur de tennis uniquement lorsqu'il n'est pas avec son coach et qu'il souhaite progresser. Et juste pour finir sur les trois piliers qu'il y a dans l'application, donc la performance, on a le suivi de la de sa performance.
D'accord.
Et on a une communauté et c'est vraiment ça le point. Clé, c'est qu'on a une gamification qui permet aux joueurs, lorsqu'ils s'entraînent, de cumuler des points.
De se challenger.
Ensemble. Et tout ça, en fait, dans un environnement immersif comme les joueurs professionnels. Ce qui fait qu'on va pouvoir participer. Par exemple, là, il y a le Roland-Garros qui commence.
Oui, ce week-end. Hein.
C'est ça. Et il y a un tournoi d'entraînement virtuel dans l'application, donc où les joueurs amateurs vont pouvoir évoluer pendant les deux semaines comme des joueurs professionnels sur l'application.
Eh bien voilà, ça s'appelle Tennis and Go. Quel est le coût en fait ? C'est gratuit ? Après il y a un abonnement ? Comment ça marche ?
Le téléchargement est gratuit. Il y a une base d'exercices qui est gratuite. Et après on peut aller dans de la personnalisation et plus de contenu avec un abonnement annuel ou mensuel qui reste accessible à tous.
Merci beaucoup Rafid Djebari, fondateur et président donc de Tennis and Go. On revient dans un instant pour l'info éco. Il est bientôt 20h30 et on va parler aussi d'un anniversaire dans quelques instants, les 5 ans du RGPD qui est là pour protéger en fait notre vie privée, vous le savez, pour nous internautes européens. On en parle avec Jean de Chambure et son invité. À tout de suite.
BFM Business, l'info éco.
On a 20h31 sur BFM Business. Il est temps de retrouver l'info éco. C'est avec Aude Kersulek. Bonsoir Aude.
Bonsoir François, bonsoir à tous. À la une de ce journal, c'est l'Allemagne qui est officiellement entrée en récession au premier trimestre de cette année. Le PIB plonge dans le rouge pour le deuxième trimestre consécutif. L'inflation toujours élevée, notamment dans l'énergie, a pénalisé l'industrie allemande. Thomas Schnell.
C'est la douche froide dans la première économie de l'Europe. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le PIB a reculé de 0,3% sur la période, après un recul déjà au quatrième trimestre 2022 de 0,5% au lieu de la stabilité anticipée à cause de l'inflation à 7% et de la crise énergétique. Hors Covid, de tels chiffres n'avaient pas été enregistrés depuis 2008. Une contraction qui a surpris les analystes. À la fin du mois d'avril, l'Office fédéral de la statistique allemande s'attendait encore à une stagnation au premier trimestre. trimestre. Mais la chute de 1,2% de la consommation des ménages, la baisse de 3,3% de la production industrielle et celle de 4,9% des dépenses publiques ont eu raison de cet optimisme. En plus, le secteur automobile a été victime de la réduction des primes d'achat de voitures électriques. Le gouvernement d'Olaf Scholz continue de croire à l'inversion de la courbe en tablant toujours sur une croissance de 0,4% sur l'ensemble de l'année.
Aux États-Unis, le PIB a lui progressé de 1,3% au premier trimestre. Il s'agit d'une deuxième estimation plus forte que la précédente, même si l'économie américaine croît maintenant moins vite qu'en 2022. Concernant le plafond de la dette, Joe Biden assure ce soir qu'il n'y aura pas de défaut de paiement. La Maison-Blanche fait état de négociations productives avec l'opposition. De Francfort, le vice-président de la BCE presse les États à mettre fin aux aides sur l'énergie. La crise s'atténue, explique Louise de Guindos, les gouvernements doivent supprimer les mesures de soutien afin d'éviter d'accroître les pressions inflationnistes. À moyen terme, Klaas Knot, le gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas, déclarait lui à plusieurs médias que les deux hausses de taux de juin et juillet étaient intégrées aux prévisions d'inflation de la BCE. Elle était invitée plus tôt sur notre antenne dans Good Evening Business, Dominique Carlac, la prétendante à la présidence du MEDEF. Une de ses propositions pour réindustrialiser la France et de baisser le coût du travail. On l'écoute.
Il faut absolument que pour avoir une industrie forte, on ait une ingénierie forte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que notre industrie soit pilotée, conçue, organisée par de l'ingénierie qui est à l'étranger.
Oui.
Et l'ingénierie qui est à l'étranger, ça peut être par exemple les équipes d'ingénieurs indiens qui sont tout aussi bien formées oui. que les nôtres. Et puis on peut lentement mais sûrement offshoriser, en mauvais français, ces fonctions de conception et d'ingénierie. Si on fait ça, on n'aura plus d'industrie. Et donc globalement, si on ne travaille pas là-dessus, c'est notre oui. prochaine vague de colère sociale dans la rue et qui s'exprimera, oui. je pense, très très vite en 2027.
Deux vaccins contre la grippe aviaire se sont révélés très efficaces selon l'agence sanitaire ANSES. Efficace sur le canard mulard élevé spécialement pour le foie gras. Une campagne de vaccination pourrait être lancée d'ici à l'automne prochain selon le ministère de l'Agriculture. Et 2023 sera une année historique au niveau mondial. Pour la première fois, les investissements dans les panneaux solaires vont être plus importants que ceux réalisés dans le pétrole. C'est ce que prévoit l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport annuel. La reprise post-Covid, mais aussi la guerre en Ukraine, ont boosté les dépenses dans les énergies propres. On voit ça avec Raphaël Couder.
Le solaire est la star des investissements énergétiques mondiaux, selon l'Agence internationale de l'énergie. Désormais, plus d'un milliard de dollars est dépensé chaque jour pour construire ou déployer des panneaux solaires, ce qui fait qu'en tout, sur l'ensemble de cette année, les investissements devraient dépasser les 380 milliards, un montant record, et c'est une première, un montant qui est même supérieur aux investissements dans le pétrole. Plus largement, les investissements dans l'ensemble des énergies renouvelables vont cette année encore surpasser largement les dépenses dans les énergies fossiles, une tendance qui est portée par la reprise de la croissance après le Covid. Et surtout, depuis un an, la guerre en Ukraine a suscité beaucoup d'inquiétudes sur la volatilité des prix de l'énergie, ce qui a accéléré les investissements dans de nombreux pays. Aux États-Unis, l'Inflation Reduction Act a par exemple joué un rôle considérable. En revanche, l'AIE pointe du doigt les géants pétroliers et gaziers malgré des engagements ambitieux. Sur le papier, leurs investissements verts n'ont représenté en moyenne que 5% de leurs investissements dans les énergies fossiles.
Dans l'aérien, un accord scellé entre l'État italien et Lufthansa concernant la prise de participation dans la compagnie ITA qui avait été nationalisée. L'allemand autre capital, 41% pour un montant de 325 millions d'euros, se réservant le droit de monter à 100% du capital dans un second temps. Le marché du luxe a-t-il atteint un plafond ? Une note d'analyste appelée à la prudence mardi dernier. Le marché américain semble fragile aujourd'hui. C'est Chanel dans sa publication de résultats annuels qui anticipe une baisse des ventes aux États-Unis. On voit ça avec Hélène Cornet.
Depuis novembre dernier, Chanel constate un léger ralentissement des ventes aux États-Unis avec une croissance limitée à un chiffre. Le marché du luxe américain semble bel et bien plongé dans une sorte d'atonie persistante. L'inflation pèse dans les résultats et ses performances modérées devraient persister toute cette année. Burberry a déjà annoncé une baisse de 7% de ses ventes aux États-Unis au quatrième trimestre. Kering a fait état d'un environnement plus difficile. La fin d'un fort dynamisme dynamisme observé après la pandémie. Le marché chinois devrait compenser cette faiblesse temporaire, avance Chanel, et cela n'empêche pas la maison de luxe d'investir dans l'ouverture de nouvelles boutiques aux États-Unis. Des propos rassurants qui ne suffisent pas à calmer les inquiétudes des investisseurs. Ils estiment que certains groupes sont peut-être survalorisés. Ils pourraient être désormais plus sélectifs et choisir des titres moins exposés au marché américain. Un marché qui représente près d'un tiers des ventes chez LVMH et Kering, 18% pour Hermès.
Autre résultat chez Ralph Lauren, meilleur que prévu. Sur l'année, Ralph Lauren a réalisé 6,5 milliards de dollars de ventes pour un bénéfice de 522 millions. C'est une hausse de 10% en devise constante tirée par l'Europe et l'Asie. Pour l'exercice 2024, Ralph Lauren anticipe une hausse à un chiffre de ses revenus. Et enfin, Twitter envisage de quitter le code de l'Union européenne contre la désinformation. Le réseau social en aurait informé. La Commission européenne s'en formellement notifié sa décision, mais depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le personnel dédié à la lutte contre la désinformation a été en partie licencié et la direction ne semble pas coopérer à vouloir réduire les risques en matière de propagande. Et on fait un point sur les marchés à présent. Quatrième séance de baisse d'affilée pour l'indice parisien. Il perd 0,3% à 7229 points. Étienne Braque, un secteur s'en sort très bien ce soir à la clôture, celui de la tech dans le sillage de Nvidia.
Nvidia qui décolle de plus de 25% à moins d'une heure et demie du fixing aux États-Unis. Ça sera confirmé tout à l'heure, mais pour l'instant, on a un groupe qui gagne 140 milliards de dollars de valorisation en l'espace d'une séance. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est la capitalisation de Total Energy. Alors pour vous donner un petit peu les contextes, parce que c'est quand même très impressionnant ce qui se passe sur Nvidia. 386 dollars l'action, ça fait 955 milliards de dollars de capitalisation boursière. On est sur un plus haut historique à la porte du club très fermé des 1000 milliards qui contient seulement 5 entreprises, Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet et Amazon. Alors pourquoi le titre s'envole ce soir? Car hier soir, il a dévoilé ses résultats trimestriels. On est sur des résultats stratosphériques que personne ou presque avait vu venir, puisque pour vous donner un ordre d'idée, vous avez le groupe qui prévoit 11 milliards de chiffre d'affaires au deuxième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à 7 milliards. Pourquoi ? Parce que vous avez l'intelligence artificielle qui demande des moyens énormes, notamment dans les data centers, et on a un groupe qui s'est spécialisé sur ces activités-là, et puis surtout qui vous dit que dans les prochains mois, il y aura une pleine révolution qui va se jouer, donc le marché continue d'acheter cette valeur qui a plus que doublé depuis le début de l'année, plus 170% depuis le 1er janvier. François, en l'espace de 5 ans, on a un titre qui a été multiplié par 10, car on est passé d'une société qui était une société de geeks, qui faisait des cartes graphiques, où on jouait, où on achetait ces cartes graphiques pour mettre dans ses tours, à une boîte qui a pris le virage du cloud, qui a pris le virage
De l'automobile aussi.
De l'automobile, et puis au passage également du bitcoin avec le minage.
Et oui, et donc l'IA, c'est ce que et tu donc, disais. L'IA. Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque, donc 20h40 sur BFM Business, Tech & Co tout de suite, et on va s'intéresser aux 5 ans du RGPD tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, 20h40, le retour de Tech & Co sur BFM Business. Il y a 5 ans, entrée en vigueur donc ce fameux RGPD qui veut dire, rappelons-le, le Règlement Général sur la Protection des Données. Voilà, qui est en fait le fruit de 4 années de gestation, de négociation à Bruxelles et qui est là pour, on va dire, protéger les données personnelles des citoyens européens. Et voilà, au bout de 5 ans, on va souffler les bougies, non pas sur le gâteau, mais sur le cookie, si vous me permettez cette petite expression, avec nos invités. Michel Leclerc est avec nous. Bonsoir Michel.
Bonsoir François.
Vous êtes associé du cabinet Parallèle Avocat. Vous suivez au quotidien tous ces sujets. Merci d'être là. Et Jean de Chambure est avec nous aussi. Bonsoir Jean.
Bonsoir François.
Consultant chez JDC Advisory et au bureau des éveilleurs aussi. Alors messieurs, voilà, 5 ans de RGPD. On va revenir peut-être rapidement, Michel, sur ce que ça apporte, le RGPD. Voilà, avec des effets vraiment positifs, mais aussi peut-être enquiquinants pour le quotidien de tous ceux qui surfent sur Internet. Qu'est-ce que c'est que le RGPD pour tous ceux qui, pendant 5 ans, étaient sur une île déserte et qui reviennent aujourd'hui ?
Ben, c'est un règlement européen, c'est-à-dire que c'est un texte d'application directe dans tous les pays de l'Union européenne et qui établit un certain nombre de principes qui s'appliquent à toutes les entreprises et toutes les personnes aussi, physiques, morales, qui traitent des données personnelles. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des principes de protection des données, d'information des personnes et des sanctions aussi qui sont attachées au non-respect de ces principes. principes. Et ce texte a été très ambitieux. Et 5 ans après, c'est presque l'âge de raison. Et on se trouve dans un bon moment pour parler de bilan. Et beaucoup des objectifs ont été atteints. Et nous, qui conseillons des entreprises technologiques, on voit aussi beaucoup d'effets concrets dans la vie des entreprises, ainsi que dans la vie économique et les relations avec les personnes concernées par ces traitements de données, qui nous font dire que le bilan est positif, de manière générale, parce que ce texte est sans doute le plus connu des textes européens aujourd'hui. Si vous demandez à quelqu'un dans la rue ce que c'est que le RGPD, vous avez de fortes chances que la personne vous parle de données personnelles. Les personnes concernées sont de plus en plus conscientes de leurs droits. Et c'est l'entrée en vigueur de ce texte et du régime de sanctions qui va avec, qui l'a sans aucun doute permis. C'est un texte qui a fait émerger aussi la figure de la CNIL comme autorité de régulation majeure dans le paysage français, avec une autorité qui fait à la fois de la pédagogie, de la prévention, mais aussi des contrôles et des sanctions.
Tout à fait, on parlera des sanctions tout à l'heure aussi d'ailleurs.
Absolument, et c'est un texte qui a permis de faire entrer dans la philosophie de conformité des entreprises numériques, mais de toutes les entreprises, pas seulement technologiques, l'idée que la protection des données personnelles est un sujet très sérieux. Là où la loi informatique et liberté, qui existait 40 ans avant le RGPD, avait avant statut et figure de texte un petit peu confidentiel.
Alors, les obligations imposées par le RGPD, c'est recueillir l'accord préalable des clients, informer les clients de leurs droits d'accès, de rectification, d'opposition et de suppression des informations collectées, veiller à la sécurité des systèmes d'information et assurer la confidentialité des données. Et ça, on le voit au quotidien, hein, Michel, puisque c'est peut-être l'un des, on va dire, des sujets un peu enquiquinants, hein, de l'application du RGPD. C'est que quand on arrive sur un site, on est tout le temps obligé. Est-ce que vous acceptez les cookies? Il y a tout ce truc-là qu'on fait systématiquement. Est-ce que finalement, pour le particulier, je veux dire, c'est une valeur ajoutée, vous pensez ?
C'est vrai que la crainte initiale générée par les sanctions a poussé beaucoup d'entreprises à se mettre en conformité. Dans ces mouvements de conformité,
pour certaines.
Dans la douleur,
ça a été dur.
Ça a nécessité beaucoup d'efforts et de conseils, mais ça a donné lieu effectivement à une sorte d'uniformisation du paysage numérique sur ces sujets, sur le sujet des cookies ou l'acceptation des politiques de confidentialité, qui fait qu'effectivement aujourd'hui il y a une certaine fatigue. Qui est généré et qui peut avoir l'effet pervers de nous faire accepter par réflexe, sans vraiment réfléchir, des politiques de confidentialité.
Alors le seul intérêt, c'est de pouvoir dire non. Et donc de ne pas communiquer nos données personnelles, enfin en tout cas une partie de nos données personnelles, c'est ça ?
Absolument, ça c'est un des effets bénéfiques majeurs et ça me fait penser tout de suite aussi du côté des entreprises qui collectent les données, qui les traitent en tant que responsables de traitement ou sous-traitants, c'est la nécessité de continuer ces efforts de manière permanente et de ne pas penser que parce qu'on a un délégué à la protection des données, c'est-à-dire un DPO qui est une figure aussi assez connue aujourd'hui dans l'entreprise, de penser que les sujets sont gérés parce qu'on a une bannière de cookies et un DPO sans se rendre compte que le RGPD est un texte très général qui est constamment interprété par les juridictions et par la CNIL et qu'il faut se mettre à la page de manière continue parce que c'était ça la philosophie du texte, c'était d'édicter des principes qui poussent les entreprises à se mettre en conformité, à être capables de la documenter. C'est cette idée aussi de privacy by design qui est une expression assez connue qui a été créée par le RGPD qui consiste à pousser les entreprises à concevoir leurs services et leur technologie d'une manière qui protège les données personnelles dès le début et qui nécessite évidemment des ressources importantes.
Alors messieurs, on va faire une petite pause de quelques secondes et on revient parce qu'on n'a pas fini là-dessus, on a bien planté le décor, mais est-ce que ce RGPD est efficace ? Quel est le bilan en 5 ans ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'amendes ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de boîtes qui ont été sanctionnées ? Jean de Chambure fait la moue. Meta, je ne sais pas si... Je pense qu'ils doivent la faire
personnellement, ça
aussi.
Mais bon,
on en parle dans un instant parce que c'est intéressant et tu as ton point de vue là-dessus sur ce sujet. Voilà, on parle de RGPD ce soir dans Tech & Co à l'occasion des 5 ans. Et vous restez là, on revient dans une minute. À tout de suite.
Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
Voilà, 20h48, au retour de Tech & Co sur BFM Business. Le RGPD fête ses 5 ans avec un bilan globalement positif, on le disait, sauf peut-être pour nous, utilisateurs d'Internet, avec, j'allais dire, ces conditions d'utilisation qu'il faut toujours valider, etc. Ou pas d'ailleurs, hein, parce qu'on a le choix maintenant. Mais c'est vrai que c'est enquiquinant à force de devoir toujours cliquer, parce qu'il y a des sites qui ne marchent pas tant que vous n'avez pas cliqué. Et parfois, c'est mal fichu. Enfin, on l'a tous vécu, ça. Donc, voilà. Et alors, sur mobile, je vous raconte même pas. Michel Leclerc est avec nous, associé du cabinet Parallèle Avocat, Jean de Chambure, consultant au JDC Advisory et au bureau des éveilleurs.com. On évoquait donc toute la genèse de ce RGPD avec vous, Michel. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Parce qu'on voit qu'il y a eu quand même des amendes. Et le cadeau d'anniversaire, finalement, de ces 5 ans du RGPD, c'est quand même l'amende qui a été infligée à Meta, hein, de 1,2 milliard d'euros. Oui. Voilà, parce que, justement, Meta aurait mis un peu le doigt dans le pot de confiture, finalement, et aurait, pendant des années, pris les informations des Européens et les aurait emmenées sur des serveurs américains. Mmh. C'est bien ça, hein, Jean, je crois.
Oui, en tout cas, c'est Michel Leclerc le confirmera mieux que moi, mais je crois qu'il y a un paragraphe assez clair dans l'article 46 du RGPD qui dit, en gros, voilà, si vous transférez vos données de vos clients aux États-Unis, il y a un certain nombre de conditions, et ces conditions ne sont pas respectées. Ce transfert ne se fait pas de manière
suffisamment sûre. C'est-à-dire que Meta n'a pas respecté ces conditions-là.
C'est pas que l'Europe interdit le transfert de ces données.
Mais elle se fait sous certaines conditions.
Pour qu'il se fasse, il faut prendre certaines conditions, et en gros, ça va coûter plus cher. Ça va coûter plus cher à Meta de répondre à toutes ces conditions. Et donc, c'est là où il y a vraiment le point d'achoppement.
Et c'est quoi ces conditions, Michel? Elles sont contraignantes, on va dire?
Oui, parce que c'est des conditions juridiques qui concernent en fait des protections juridiques que vous devez mettre à disposition de vos clients, mais c'est aussi des conditions techniques et aussi des conditions qui concernent le lieu de destination. Donc on parle des États-Unis en ce qui concerne cette sanction Meta, et le cœur de cette amende, l'arrière-plan, c'est le régime de droit américain qui donne des pouvoirs importants au pouvoir américain et en réalité à la NSA, c'est-à-dire en fait l'agence de sécurité intérieure des États-Unis, dans la surveillance des données, qui fait que les données des Européens ne sont pas suffisamment protégées sur le sol américain.
Mmh. Parce qu'après, évidemment, ces données, sous injonction d'un juge américain, peuvent être consultées. C'est ça aussi le souci.
C'est ça l'idée derrière.
On rentre dans le Cloud Act.
Absolument. Alors, je ne sais pas si on rentre dans le Cloud Act, mais on a cette idée que les transferts aujourd'hui en droit européen vers les États-Unis ne sont pas conformes à nos principes qui interdisent cette consultation.
Voilà. Et donc, Meta, en étant responsable de toutes ces données, passe à la caisse. On ne sait même pas, finalement, parce qu'ils sont comment? Ils sont condamnés à 1,2 milliard d'euros. Est-ce qu'ils les paieront, ces 5,2 milliards? On ne sait même pas, parce qu'il y a toujours des appels, enfin des choses comme ça. Jean, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, bon, ils ont dit que c'était terrible et qu'ils pourraient se retirer d'Europe.
C'était terrible.
Comment aurait-il pu dire autre chose?
Oui, bien sûr.
C'est de bonne guerre. Après,
il y en a plein qui veulent se retirer d'Europe.
Il faut quand même peut-être aussi un peu contextualiser cette affaire. Indépendamment, je ne dirais pas indépendamment, mais en plus de tout ce contexte juridique, il y a tout l'aspect fiscal et harmonisation fiscale européenne et au sein de l'OCDE.
Bien sûr.
C'est pas complètement par hasard si, dans les 5 dernières années du RGPD, la CNIL irlandaise est celle qui a été le plus souvent rabrouée, critiquée par l'Union européenne.
Et on sait pourquoi. Enfin, explique-nous pourquoi.
Rappelons rapidement les choses. C'est vrai que jusqu'à fin 2023, l'Irlande donne aux grands groupes internationaux des avantages fiscaux sur leurs bénéfices, qui sont en gros taxés à 12,5 au lieu de 15%.
Parce qu'ils s'installent chez eux.
Qui vont être homogènes sur tous les pays de l'OCDE. Parce qu'ils s'installent chez eux. Alors, c'est pas très nouveau. Apple avait commencé déjà il y a longtemps à Cork. Microsoft est arrivé assez récemment.
Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que c'est un peu la terre d'accueil.
Il y a tous les GAFA, à l'exception d'Amazon qui est chez...
C'est un peu la terre d'accueil européenne, on va dire.
Bon. Alors, c'est un peu la terre d'accueil. Il y a aussi des très bons développeurs, il y a des très bons call centers. Je veux dire, heureusement, c'est pas qu'une affaire fiscale. Il y a aussi beaucoup de savoir-faire en Irlande. Et il y a d'ailleurs beaucoup aussi d'immigration en Irlande grâce à ces sociétés qui sont placées là, des Polonais.
Et puis ça doit être une plus-value économique pour ce pays.
Bien sûr,
incroyable.
Donc on peut comprendre évidemment que la CNIL irlandaise, ça apparaît pas forcément dans les communiqués de presse officiels, mais on peut comprendre quand même qu'ils mettent un peu de temps et qu'ils
mettent un peu d'eau dans leur vin.
La main très très lourde. Reprenons juste le chiffre de 1,2 milliard. Certaines estimations partent plutôt sur du 4 milliards, on pourrait aller jusqu'à du 4 milliards par an. Hein. Donc c'est déjà un peu plus. Et si on dit 4 milliards depuis le départ de RGPD, 4 x 5, 20 milliards. Donc l'amende...
Là, ça commence à faire mal. Hein,
salée, mais elle est, au regard des 20 milliards, elle est presque un peu sucrée. Donc, Facebook s'y oppose, Meta s'y oppose, ils ont raison, c'est de bonne guerre, mais enfin voilà, je trouve que c'est pas énorme. Et le point, je pense, très important quand même, ce qui est complètement paradoxal, je ne sais pas ce que Michel Leclerc pense sur ce sujet, mais c'est très paradoxal en philosophie du droit. Vous avez deux systèmes qui sont pratiquement semblables. Enfin, on est très éloigné de la Russie, de la Chine, etc. C'est les deux systèmes fondamentalement protecteurs de la donnée individuelle. Et ils arrivent à se mettre en désaccord, en grande partie, à cause ou grâce, ou je ne sais pas, du droit de surveillance américain qui est quand même utilisé peut-être par Meta ici comme un certain avantage pour eux aussi à continuer la façon dont ils veulent en Europe.
Michel.
Mon point de vue sur cette question, c'est qu'effectivement, vous avez comme point de départ juridique à cette amende, c'est la décision de la Cour de justice de 2020 qui a invalidé le Privacy Shield, qui était un traité qui permettait des transferts de données aux États-Unis et qui aurait été une base légale suffisante pour transférer ces données. Ce Privacy Shield avait été annulé pour les raisons qu'on évoque, c'est-à-dire au motif que la protection des données personnelles des Européens n'était pas suffisante eu égard au droit américain, si je simplifie le débat. Et aujourd'hui, cette sanction découle de là. Mais si on regarde le contexte, vous avez aujourd'hui une phase de négociation bien avancée entre l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis pour un nouveau Privacy Shield, un nouveau traité qui permette ces transferts pour des raisons évidemment économiques qui sont fondées sur le principe de réalité qui est que l'espace numérique aujourd'hui doit fonctionner avec des transferts de données entre le continent américain et le continent européen parce qu'il est structuré comme cela.
Parce qu'en 5 ans, le bilan c'est près de 4 milliards d'euros d'amendes qui ont été infligées hein, dans le cas de ce RGPD. Et très peu ont été payés. Hein. Je crois qu'on est à 50 millions d'euros. Enfin, le maximum que chaque accusé a dû payer, c'était 50 millions d'euros. Donc, on en est très très loin.
Alors, oui, mais j'ignore la différence entre le montant total et le montant réellement payé. En revanche, ce que j'ai noté, c'est que la CNIL, là où elle a rendu des sanctions qui étaient d'un montant total en 2019 de 50 millions d'euros environ, aujourd'hui, en 2022, donc pour la CNIL française, pas irlandaise, on est à plus de 100 millions. Donc il y a un mouvement d'augmentation des sanctions, il y a un mouvement d'augmentation des contrôles, et nous, on observe chez nos clients, depuis 5 ans, un très net mouvement de prise au sérieux de ce sujet et de mise en conformité qui évidemment se situe à une échelle inférieure à celle des GAFAM, puisqu'on parle de clients technologiques plus petits, mais il y a un ruissellement de cette idée de conformité.
Jean.
Juste un exemple très concret, il y a quand même une différence d'exigence dans la restitution des données en fonction des GAFA. Je prends l'exemple. Moi, j'avais perdu à un moment donné mes mots de passe, j'avais plus mon téléphone, j'avais plus ma messagerie. Bref, donc j'ai dû faire une demande pour LinkedIn et pour Facebook. LinkedIn m'a demandé un passeport, j'ai pu récupérer mon compte. Facebook, j'ai toujours un compte Jean de Chambure, mais auquel je ne peux plus avoir accès. Parce que j'ai écrit à Facebook, ils ne m'ont toujours pas donné la possibilité de retrouver mon compte.
Donc ils ne font pas leur job
là. Bah là, non. Ouais. Et c'est quand même du niveau de... Enfin, voilà, c'est vrai que ce n'est pas normal.
Alors, bon, on a vu, bilan contrasté de ces 5 ans de RGPD. Malgré tout, on est sur la bonne voie. Ce qui va être intéressant, c'est le prochain cycle, Michel. Les 5 prochaines années, avec le fameux DSA, DMA, enfin, le IA Act, etc., qui vont arriver.
Ben vous avez évoqué DSA, DMA, IA Act. En fait, tous ces textes qui parlent d'autre chose que seulement de données personnelles, parlent chacun de données personnelles à leur échelle.
Là, on est plutôt dans la régulation, là. Hein.
Là, on est dans la régulation. Le RGPD est un grand texte aussi de réglementation ou régulation, si on peut l'imaginer comme ça, parce qu'en réalité, il fixe des principes que chaque acteur doit être capable de documenter dans sa mise en conformité. Pour revenir au DSA, DMA, IA Act, ce qu'il faut retenir, selon moi, c'est que ces textes-là sont en quelque sorte des concurrents du RGPD sur la question des données. Ils précisent le RGPD dans des contextes différents, notamment les règles applicables aux plateformes ou à l'intelligence artificielle pour l'IA Act. Et là, le prochain cycle de 5 ans qui s'ouvre va sans doute être un cycle de plus grande technicité et d'interaction entre le droit des données personnelles issues du RGPD. D'accord. Et le droit des données issues de ces textes.
Merci beaucoup Michel pour toutes ces précisions. Merci. On voit que vous avez bûché sur le sujet depuis 5 ans, voire plus, hein, puisque vous avez conseillé, évidemment, et accompagné pas mal d'entreprises, j'imagine, pour voilà, cette conformation au RGPD. Vous êtes associé au cabinet Parallèle Avocat. Et Jean de Chambure, donc. Jean, qui reste avec nous, puisque dans un instant, c'est le débrief de l'actu tech. En ce jeudi soir, on va passer une heure ensemble pour débriefer l'actu avec Claudia Cohen, Frédéric Bianchi, Bruno Guglielminetti, qui est déjà en visio, et Jean de Chambure. On va parler d'IA, on va parler de TikTok, ChatGPT qui arrive sur iPhone, de Netflix aussi avec la fin du partage de comptes. Ce débrief de l'actu tech arrive dans un instant. À tout de suite et merci d'être avec nous sur BFM Business.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà, et en ce jeudi soir, en ce 25 mai 2023, le débrief de l'actu tech, 21h, 22h, vous le savez, c'est jeudi et le lundi. Avec ce soir, sur le plateau de Tech & Co, pour commenter l'actu, Claudia Cohen. Bonsoir Claudia.
Bonsoir.
Toujours très heureux de te retrouver. Bienvenue, journaliste au Figaro. Jean de Chambure, toujours avec nous. Bonsoir Jean. Et Frédéric Bianchi.
Bonsoir.
Rebonsoir Fred, journaliste donc à BFM Business. Et en visio avec nous à quelques milliers de kilomètres, mais malgré tout hyper connecté, c'est Bruno Guglielminetti. Bonsoir Bruno.
Bonsoir François.
Ravi de te retrouver Bruno pour le débrief. Tu vas rester avec nous pendant une heure. J'espère que tu as de la batterie.
Ouais, ça devrait être bon.
Voilà, rappelons que tu es spécialiste des médias numériques, tu es au Québec, hein, tu es un peu la star de la tech au Québec, animateur de ton podcast, entre autres, Mon Carnet, de l'actualité numérique, que je vous conseille d'écouter chaque semaine, toujours très intéressant d'avoir un point de vue de l'autre côté de l'Atlantique. On va parler d'IA ce soir, bien sûr, dans un instant, on va parler aussi de TikTok, parce qu'avec cette enquête de Claudia, c'est très intéressant, on voit que TikTok mène une bataille sur tous les fronts, et notamment au Montana. Et puis voilà pourquoi aussi TikTok inquiète les industries culturelles en France. Tu as enquêté sur ce sujet, on va l'évoquer. On va parler aussi de la fin du partage des comptes Netflix. Ça, c'est la catastrophe à la maison, hein. Je sais pas vous, mais tout le monde parle de ça chez moi. C'est un enfer. Et puis aussi, on parlera puce avec le record de Nvidia qu'évoquait Fred tout à l'heure. Et puis, cette tension, hein, des processeurs entre la Chine et les États-Unis, bien sûr, qui est toujours sur le devant de la scène. Mais pour débuter, donc, l'IA, ChatGPT, on en parle tous les jours, quasiment, sur tous les médias. La nouveauté, c'est que ChatGPT arrive sur iPhone. C'est une petite révolution. Il faut télécharger une appli. Alors faites attention, Fred nous l'a expliqué tout à l'heure. Vous avez énormément d'applis, hein, Claudia, qui sont des fausses applis de ChatGPT.
Figure-toi que moi, je me suis trompée.
Tu t'es fait avoir.
Oui, je me suis fait avoir par deux fois avant de trouver la bonne. Et en fait, tout simplement, si tu vas dans le top France sur l'Apple Store des applications les plus téléchargées, c'est déjà la deuxième application ChatGPT la plus téléchargée. Après, Temu, tu sais, c'est cette application chinoise de shopping à bas prix, qui est la première en France, donc. Donc, cette application de ChatGPT, on le rappelle, c'est que sur iPhone pour l'instant. Il n'y a pas de date qui a été communiquée pour la sortie sur Android. Et on peut retrouver, ce qui est assez intéressant, l'outil de reconnaissance vocale qui a aussi été créé par OpenAI, qui s'appelle Whisper. Oui. Là-dessus. Et voilà, par contre, tu n'as pas d'option, on va dire, un peu plus détaillée comme on peut avoir sur Bing. Donc, en fait, c'est mieux d'aller sur le web si tu veux avoir ChatGPT
4 en plus, qui est gratuit sur Bing, je crois, hein, par le navigateur Edge.
Ouais, et qui est payant via l'application.
En revanche, voilà, vous verrouillez dans l'univers Microsoft, parce qu'il faut télécharger sur l'iPhone appli Edge, qui est le navigateur donc de Microsoft. C'est une appli qui existe sur iPhone. Il faut avoir un compte Microsoft pour vous loguer. Et après, en cherchant par Bing, vous pouvez accéder à ChatGPT 4, qui est gratuit là sur ce coup-là.
Oui, ils auraient tort de s'en passer. Hein. C'est eux qui ils ont senti le coup. Donc autant
attirer. On ne va pas leur jeter la première pierre.
Comme certainement beaucoup de monde autour de cette table, j'ai téléchargé Bing sur iPhone parce que ChatGPT était déjà disponible finalement sur smartphone à travers Bing. Bon, sauf que maintenant, ils utilisent leur propre appli, donc ça va les renforcer davantage. En tout cas, c'est quelque part, c'est un peu la véritable naissance de ChatGPT. Parce que bon, l'ordinateur, c'était bien, mais on n'est pas tout le temps devant l'ordinateur. Là, si on a ChatGPT en permanence dans la poche, c'est là que les usages vont se démultiplier. on aura l'accès à la commande vocale. Donc, c'est, pour moi, c'est la véritable naissance de ChatGPT. On va voir vraiment la transformation des usages et ce qu'on va en faire le grand public.
Jean, mais oui. Après, on donnera la parole à Bruno.
Et non, il y a peut-être aussi un sujet de juridique aussi pour Microsoft. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça me rappelle un petit peu ce qui se passait dans les années 2000 où on avait complètement Windows, on était obligé d'avoir Windows, on était obligé d'avoir.
Tu te rappelles les navigateurs, on avait Internet Explorer.
Sévèrement.
Taper sur les doigts.
Sur les doigts avec une grosse amende de la Commission européenne. Et donc là, c'est une manière peut-être pour Microsoft de pouvoir développer son outil sans être forcément intégré, et aussi on nous demande de ne plus être intégré, de le couper, de le mettre que en application.
Bon, Bruno, au Québec, ChatGPT sur iPhone, c'est déjà dispo, j'imagine?
Non, pas du tout. Et c'est d'ailleurs, vous avez fait des jaloux aujourd'hui quand j'en ai parlé, moi, sur mon fil d'information. Ben, j'ai eu beaucoup de questions du côté du Canada. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Alors, pour le moment, aux États-Unis et en France, c'est disponible. Mais il y a une question aussi de déploiement. On veut juste s'assurer d'être capable de répondre à la demande d'une part. Mais pour ceux qui sont malheureux à travers le monde et qui n'ont pas accès à l'application iOS ou sinon, ben, les gens sur Android, c'est encore plus simple d'y aller en utilisant son furteur, que ce soit Chrome, que ce soit soit Safari, et de se brancher directement à partir du navigateur là, mobile, directement sur ChatGPT, et puis on a accès au service original. Et c'est un peu ce que je fais depuis le lancement là, en novembre dernier.
À ton avis, ça a un sens, ChatGPT sur smartphone, via une appli? Est-ce que c'est vraiment la killer app ou c'est un peu un coup d'épée dans l'eau?
Ben, faut savoir que maintenant, plus que la majorité des internautes, des gens qui naviguent sur Internet, le font à partir de leur mobile. Donc, à partir de ce moment-là, le marché, eh oui, il est là. Et si on parlait de centaines de millions d'utilisateurs au mois de janvier, ben là, ça va décupler de façon grand V parce que les gens sont sur leur téléphone.
Ouais, ça va vraiment, enfin, c'est le coup du début du remplacement pour moi d'une partie du search, en fait. Moi, je me dis, je l'ai dans ma poche, comme disait Frédéric, au lieu d'aller me connecter sur Internet et sur Google, en fait, je tape directement ma requête pour des trucs simples, hein, j'entends, hein. Mais je pense que beaucoup d'utilisateurs, dans un premier temps, en France, et déjà le cas aux États-Unis, vont passer par l'appli plutôt que par le search, quoi, de Google.
Alors, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi la France? Est-ce que c'est un rapport avec la présence de Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI en ce moment en France, tiens? Est-ce qu'il sait, je sais pas, est-ce que tout a été, tu vois, coordonné pour dire, ben voilà, on offre ChatGPT en France sur iPhone, je sais
peut-être,
pas trop.
Hein. Il est déjà un peu aussi en train d'expliquer que si on ne sait pas complètement ce qu'il souhaiterait, il pourrait partir d'Europe.
Alors, hein. Ouais, ça c'est le deuxième effet qui se coule, on y reviendra tout à l'heure.
Sympathique, mais bon, jusqu'à un certain point, ouais. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai que ça fait un joli coup de communication.
Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est plutôt cool.
Oui, on rappelle que l'application ChatGPT est sortie il y a une semaine aux États-Unis. C'est vrai qu'en général, ça met beaucoup plus de temps.
Et puis la France, en général,
arrive
voilà.
En Europe, et la France n'est pas la pionnière en Europe.
En général, c'est Royaume-Uni, Allemagne.
On peut être.
Là, je me dis, est-ce que c'est pas parce
que satisfait d'être les premiers servis? En tout cas, voilà, ça va poser des questions. Et Sam Altman l'a dit cette semaine, il a quand même menacé éventuellement de cesser les activités de ChatGPT si on lui mettait trop de bâtons dans les roues, ou en tout cas si on considérait que ChatGPT eh bien, était une entreprise à risque, comme semble l'indiquer, comme l'a indiqué cette semaine le commissaire Thierry Breton.
Il a quand même un double discours, hein, Sam Altman, parce que faut le rappeler, quand il a été auditionné, il me semble que c'était le mois dernier, lors d'une commission parlementaire aux États-Unis, lui a mis en avant le fait qu'il était conscient des propres dangers des technologies qu'il développait et qu'il souhaitait que les élus à travers le monde s'emparent dès maintenant du sujet de la régulation. Donc en fait, il y a cet appel qui est lancé, et puis quand vraiment les choses deviennent concrètes, il commence à dire en fait, écoutez, bon, peut-être que nous on partira d'Europe si jamais c'est trop. Donc il faudra voir quelle est la définition de trop selon lui, parce que à part ce que tu disais, le fait que ce soit considéré comme une technologie ou une entreprise risquée, je pense qu'il y a d'autres trop dans son imaginaire qui pourraient apparaître.
Alors, Sam Altman est en France actuellement, hein, je crois qu'il est il passe d'ailleurs à Station F aujourd'hui ou demain d'ailleurs, pour visiter l'un des plus grands incubateurs de start-up en Europe. Mais il faut savoir que le commissaire européen pour le numérique Thierry Breton s'est entretenu aussi avec un autre spécialiste de l'IA, c'est le patron de Google, Sundar Pichai, qui était à Bruxelles hier. Et ce dernier s'est montré ouvert à la mise en place d'une réglementation sur l'intelligence artificielle qui fait peur justement à Sam Altman. Avant même la mise en place de cette loi, on écoute les explications de Léa Benaïm et on revient juste après commenter tout ça.
Ce voyage n'est pas exceptionnel. Sundar Pichai se rend à Bruxelles une fois par an. Mais cette visite de courtoisie avait une intention, faire preuve de bonne volonté. L'Union européenne veut être la première au monde à se doter d'un cadre juridique complet vis-à-vis de l'IA. Un projet ambitieux a déjà été proposé il y a 2 ans, mais son examen par les États membres et le Parlement traîne en longueur. Un cadre légal pourrait être adopté avant la fin de l'année, mais la loi n'entrerait pas en vigueur avant 2025, selon les mots de Thierry Breton. Pour le commissaire européen, la question aujourd'hui, c'est de discuter de ce que l'Europe attend des entreprises avant que la législation n'entre en vigueur. Cela fait plus de 10 ans que Google introduit de l'IA dans tous ses produits. Le géant de la tech a récemment annoncé la transformation de son moteur de recherche pour y intégrer des réponses générées par une IA en guise de riposte à Microsoft. Un rendez-vous qui intervient alors même que Sam Altman, le patron de ChatGPT, menace de quitter l'Union européenne.
Voilà, donc on a deux sons de cloche là. Hein. D'un côté, Sundar Pichai qui dit, bah écoutez, voilà, allons-y. Bon, en restant poli devant Thierry Breton. Voilà. Et puis Sam Altman qui lui dit, attention, si vous allez un peu trop loin dans la réglementation, je risque de quitter l'Union européenne. Bruno, c'est du pipeau tout ça, on est d'accord. Hein, ils nous font le coup à chaque fois.
Ben, on s'entend que Google voit d'un bon œil un certain encadrement parce que ça pourrait ralentir la concurrence. Et la concurrence, c'est OpenAI, c'est Microsoft. Alors évidemment, si le leader peut être ralenti dans son ardeur, ça fera plaisir aux gens de Google qui ont peine à les rattraper.
Oui, c'est ça, exactement. Mais est-ce que tu penses sérieuses les menaces de Sam Altman qui dit, bah écoutez, si la réglementation est trop forte, bah on arrête ChatGPT en Europe, c'est pas un problème.
Non, écoutez, votre marché est trop important pour eux. C'est sûr qu'à un moment donné, quand on viendra à la fin, il y aura sûrement des compromis qui seront à faire de part et d'autre. Mais c'est sûr qu'ils vont pas se retirer du marché de l'Europe, c'est impensable.
C'est pas la première fois qu'on avait ces menaces d'ailleurs. On a eu Facebook voulait quitter, je crois c'était l'Europe à l'époque de
là, ils ont récidivé avec Meta.
Il y avait Google aussi qui avait menacé de quitter l'Australie. Imaginez Google quitter l'Australie,
pour
quoi.
Les droits voisins.
Ouais, pour les droits voisins de la presse. Ouais. C'était allé loin. Bon, après, le souffle était retombé. Ouais. Ça me fait penser à deux chats, tu sais, qui s'aiment pas et qui s'ébouriffent un peu pour dire, bah, attention, c'est moi le plus costaud. Et puis finalement, après, ils vont manger dans la même gamelle, quoi.
Non, mais c'est quasiment. Qui quitteront pas l'Europe. C'est un marché, on se passe pas d'un marché de 400 millions d'habitants. Un fort pouvoir d'achat, évidemment, qui ne part pas. En revanche, Thierry Breton, ce qu'il a dit, c'est assez intéressant. Il met un peu quand même de l'eau dans son vin. Ce qu'il a dit lors de sa rencontre avec Sundar Pichai, c'est le règlement, il viendra, mais ce qu'on attend de vous aujourd'hui et ce sur quoi c'est un discours, je pense, qu'il n'y a plus au patron de Google, c'est on attend aussi de votre part du volontarisme. Proposez-nous vos propres garde-fous, mettez-vous vos propres limites, faites votre propre réglementation dans un premier temps. Après, peut-être que dans un second temps viendra la loi, mais ce qu'il explique aussi, c'est que tout peut ne pas passer par la loi. Il n'y a pas forcément un grand règlement qui va arriver. Alors, même si certainement on va devoir encadrer. Aujourd'hui, ces services-là sont déjà encadrés par le RGPD. Hein. Sur la protection des données, le RGPD est déjà efficient.
ChatGPT s'était fait taper sur les doigts en Italie, notamment.
ChatGPT s'est fait taper sur les doigts en Italie et interdit, à ma connaissance, toujours aujourd'hui en Italie, en tout cas.
Non, c'est fini. L'interdiction est
de retour en Italie. Mais bon, là, il y a déjà une législation qui encadre ça. Et il demande aux grands acteurs, modérez-vous vous-même et on va discuter. Il y a un dialogue qui se met en place et pas simplement un gendarme qui arrive qui fait les gros yeux.
Ça a une certaine vertu quand même parce que si on regarde l'historique des discussions juridiques de la Commission européenne sur l'intelligence artificielle, ça date quand même depuis avril 2021. C'est-à-dire, ça fait un peu plus de 2 ans, en gros, qu'ils discutent avec des courants plus libéraux, des courants plus autoritaires, sous l'égide de la vice-présidente de la Commission européenne. Et là, en fait, elle a promis un texte d'ici la fin de l'année. Parce que c'est vrai, bien sûr, qu'il y a des liens très forts avec RGPD, mais ça va aussi plus loin. Bien entendu, puisque on parle de surveillance généralisée des foules, on parle de véracité de l'information.
Et là, de droit d'auteur. Le droit d'auteur sur l'IA générative.
C'est un des sujets, mais je pense quand même que la surveillance des foules via l'intelligence artificielle, c'est un sujet. Et je pense aussi que la véracité de l'information, sur lesquelles je pense que la culture américaine est plus... peut-être un peu plus, non pas inconscience, mais peut-être un tout petit peu plus enfantine sur le sujet. Nous, on est quand même...
Sauf avec TikTok. Avec TikTok,
des médias forts, le BFM, etc. On fait attention à ce qu'on dit. Il y a des erreurs, des fake news aux États-Unis. J'ai l'impression que tout ça est pris un peu dans un marasme sur les réseaux sociaux et avec une sensibilité peut-être un peu différente de la nôtre.
Alors, je vous propose de faire une petite note. Bruno, en visio avec nous, Claudia, Fred et Jean. On va poursuivre encore sur l'IA parce que d'un côté, on a la réglementation, ce projet de réglementation européenne. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi cette décision du G7 d'avoir ce groupe de réflexion pour réglementer l'IA. Est-ce que ça fait pas un peu trop tout ça? Est-ce que tout le monde va s'entendre finalement? Bon, et puis le G7, qui est intéressant, c'est que c'est les plus grandes puissances mondiales. Donc d'un côté, il y a les États-Unis, le Japon, hormis la Chine. Tu as raison. Mais on voyait mal la Chine arriver là-dedans aussi.
Alors la Chine, ils ont le contexte. CAC. Ils ont le CAC, la Chine. C'est pas alors, le CAC 40, c'est Cyberspace Administration of China. Eux, ils résoutent des problèmes très rapidement.
Ouais, et puis eux, ils sont tout seuls. Donc ils ont.
Ouais, c'est ça. Ça va plus vite. Bon, c'est avantage inconvénient surtout.
C'est ça. On revient dans un instant, Tech & Co avec le débrief de l'actu tech dans une minute, à tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Voilà le débrief de l'actu tech jusqu'à 22h avec ce soir Claudia Cohen, journaliste au Figaro, Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business, Jean de Chambure, consultant, expert de la tech et qui connaît bien aussi le continent asiatique et notamment la Chine. Et puis Bruno Guglielminetti qui est avec nous depuis le Québec. Bruno, spécialiste des médias numériques et animateur du carnet de l'actualité numérique, mon carnet exactement. Bruno, on parle de cette régulation, de cette réglementation concernant l'IA, alors qu'on fête les 5 ans du RGPD, on en parlait tout à l'heure. D'un côté, Thierry Breton, l'Union européenne qui veut réguler. Et puis après, il y a eu cette décision du G7 aussi, que tu as peut-être vu passer cette semaine. Hein, le G7 qui veut aussi encadrer cette intelligence artificielle. Et rappelons que le G7, ce sont les plus grandes puissances mondiales, sauf la Chine, Jean, tu le disais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Ça va pas faire un peu trop de gendarmes autour d'une IA?
Ben, et d'autant plus que tous les pays ils vont pas à la même vitesse. Et c'est là où j'ai l'impression que ça... Bon, écoutez, ça sera plus un exercice de communication et de relations publiques qu'autre chose. Parce que un peu comme à un moment donné, quand il y a eu des dérives au début de Facebook et les autres réseaux sociaux, et il y a les chefs d'État du G7 qui ont avisé les GAFAM de mettre en place un système de monitorage et d'encadrement des commentaires et des publications, et bon, ils avaient dû réagir. J'ai l'impression qu'on est dans le même contexte où c'est pas vraiment des législations qui vont être passées, mais ce sont des grandes lignes qui vont encadrer des vœux pieux de la part des principales nations qui composent le G7.
Claudia, sur ce sujet?
Tout à fait d'accord avec lui. Je pense pas qu'il y aura de textes de loi oui. À proprement parler concrètement qui sortiront des discussions, mais par contre montrer que les puissances mondiales se réunissent ensemble et ont la même vision sur ce sujet qui est quand même délicat, je trouve que c'est une bonne chose. Ce qui est pas assez souligné à mon sens quand même, ce que je trouve très positif dans tout ce débat, c'est cette sorte de consensus qui s'est développé assez rapidement entre à la fois les pays, les acteurs concernés et puis entre guillemets les populations sur les possibles dangers et dérives de l'IA, et là en l'occurrence des nouvelles formes d'IA générative. Mm-hmm. Parce qu'il faut quand même rappeler, ça n'avait pas été le cas au moment où les principaux réseaux sociaux américains notamment sont nés. On a mis des années, voire une décennie, à comprendre qu'il pouvait y avoir une exploitation toxique de ces réseaux sociaux. Donc moi je trouve que c'est, même si effectivement ça peut paraître un peu fouillis, il y a des trucs dans tous les sens, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que pour une fois, il y a un consensus sur un sujet.
Juste un mot parce que je sais que Fred veut réagir, mais quand on voit que par exemple dans le G7, évidemment, il y a les États-Unis, les États-Unis n'ont pas les mêmes enjeux que nous parce que les États-Unis accueillent toutes ces technologies. Toute l'IA vient de l'US, des US aujourd'hui.
Exactement, oui.
Et on imagine qu'il n'y aura pas la même. Enfin, pour accorder ces violons avec les US, ça va être compliqué. Non?
Ben oui, c'est pour ça que c'est une déclaration. On ne sait pas ce qui va sortir de ça, mais c'est très politique, c'est très communication. Évidemment que États-Unis, Allemagne, Japon, France, Canada n'ont pas forcément les mêmes intérêts, les mêmes objectifs par rapport à ces nouveaux services-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis auront davantage tendance à pousser ou à être peut-être un peu plus laxistes sur la réglementation. Ce sont des entreprises qui viennent des États-Unis. Quand en face, on a l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, on est des consommateurs de ces services. service-là. Ouais. Donc, quand on est simplement consommateur
et pas
producteur, pas industriel, et bien on a plus tendance à montrer les gros bras et à jouer les gendarmes parce qu'on a moins à perdre d'un point de vue économique.
Oui, non, mais c'est très vrai. Après, par rapport à ce que tu disais sur ce fait que positif que tout le monde s'y met, je pense que la différence avec les réseaux sociaux et même au début de l'Internet, c'est que cette fois-ci, on n'a pas tellement affaire à des outils de communication, mais c'est vraiment des outils qui font un peu la même chose que l'homme, quoi. Enfin, en tout cas, dans le raisonnement. Donc, je pense quand même intimement, très intimement, ouais, on est tous assez... pas effrayé, mais en tout cas fortement concerné par le sujet. Et ça, je crois que c'est très universel.
Le risque est beaucoup plus palpable, finalement. Alors peut-être qu'il est certainement exagéré, etc. Mais Facebook, c'était l'évolution d'autres types de services.
Là, on arrive à quelque chose qui réplique.
Là, c'est vraiment une rupture.
Qui tente de le répliquer.
Et qui, voilà. Qui,
sans doute pas, mais voilà.
Qui peut remplacer l'homme.
J'adore, Bruno lève le doigt comme à l'école. Enfin, quelqu'un je le vois sur mon écran de contrôle, mais c'est parfait. On voit le professionnel quand même des médias qui est Bruno Guglielminetti. Il lève le doigt, donc il veut prendre la parole. Bruno, c'est à toi.
Ouais, un grand démocrate. Mais l'idée, moi, ce que je trouve intéressant de cette annonce-là, et ça, c'est le positif que je sors pour le moment, c'est que quand même, souvenez-vous, le mois dernier, il y a des spécialistes de l'IA qui ont signé une pétition. Ils étaient 1000, maintenant ils sont 27 000 à l'avoir signée, et ils demandaient au pays de prendre acte de la situation. Et je pense que de voir le G7 comme ça s'immiscer dans la question et d'annoncer publiquement qu'ils vont se pencher sur la chose, nonobstant toutes les décisions gouvernementales à travers le monde, je pense que c'est un bon signe et il y a quelque chose de rassurant là-dedans.
Tiens, juste, on évoquait tout à l'heure, on change un petit peu de sujet, Bruno, on évoquait les 5 ans du RGPD, je sais que tu étais déjà connecté, peut-être que tu as entendu notre débat avec notre avocat Jean de Chambure. Tu n'es pas sans savoir aussi que voilà, l'Europe a condamné Meta avec cette amende de 1,2 milliard de dollars ou d'euros, c'est d'euros, hein, je crois, oui, puisque c'est une condamnation européenne, donc on est en euros, c'est plus cool quand même, c'est plus politiquement correct. De ton Québec, de l'autre côté de l'Atlantique, comment vous voyez tout ça? Est-ce que ça vous enfin, c'est crédible, c'est sérieux, ou vous dites, de toute façon, Meta paiera jamais? Comment vous voyez ça?
Ben, c'est intéressant parce que j'ai reçu beaucoup de demandes de médias pour commenter la chose et systématiquement, je leur disais la même chose. C'est-à-dire que de notre côté, ça semble impressionnant, mais dans les faits, ça sera jamais payé d'une chose. Et d'ailleurs, tes invités ont confirmé la chose dans leurs propos. Mais c'est sûr que ça frappe l'imaginaire de voir ça. Mais de l'autre côté, cette loi qui a 5 ans chez vous, faut aussi la saluer. Moi, je la salue comme Nord-Américain parce que ça a fait des bébés, hein, du côté du Québec. Maintenant, il y a une loi qui a été inspirée de la vôtre. En Californie, il y a aussi une loi qui a été inspirée de la vôtre et c'est pas rien. Alors, vous avez vraiment créé les fondements de quelque chose qui, par la suite, a percolé à travers la planète.
Mmh. On parlera de RGPD d'ailleurs tout à l'heure avec un petit peu plus de temps donné sur ce sujet. J'aimerais qu'on évoque rapidement le TikTok parce que on a plein de choses à dire sur TikTok. Évidemment, interdit au Montana. Incroyable cette histoire, Claudia, quand même. Un État américain qui interdit TikTok.
Oui, c'est justement sur ce point que TikTok a décidé de contre-attaquer en disant qu'en fait la décision de l'État américain était inconstitutionnelle.
Oui, nulle et non avenue, quoi.
Oui, c'est ça. Mais du coup, il va y avoir une décision là-dessus. Donc, on va voir. Peut-être que ça fera un effet domino, peut-être pas. Après, certainement, que c'est pas un État en soi de juger ou pas et puis de cibler, en fait, surtout. Parce que le problème, c'est que là, c'est une application en particulier qui est ciblée et pas un mode de fonctionnement ou quelque chose comme ça. Donc, c'est assez incroyable. Après, voilà, c'est un coup de force. Et ce qui est intéressant aussi, ce sera de voir les réactions côté consommateur.
Ouais.
Parce qu'évidemment, l'administration Biden et les élus ont montré leur position contre TikTok. Mais il faut savoir que quand même, TikTok, il y a plus la moitié des Américains qui l'utilisent. Dans cette moitié d'Américains, il y a des jeunes de moins de 25 ans. Et ces gens-là, dans l'État concerné en l'occurrence, eux aussi ont été saisir la justice pour dire c'est n'importe quoi cette interdiction. Donc aussi je pense que la réaction de la population américaine va jouer dans la façon dont les États et les élus réagiront à TikTok.
Voilà. Autre sujet TikTok qu'on va évoquer dans un instant, juste après l'info de 21h30, c'est ton enquête que tu as menée au Figaro concernant les industries culturelles en France qui sont inquiètes de la puissance de TikTok. Il faut savoir que TikTok est partenaire du Festival de Cannes, par exemple. Donc c'est des signes quand même qui sont étonnants. Qui aurait pu imaginer TikTok partenaire du Festival de Cannes?
Festival du livre.
On en parle dans quelques instants. Voilà, on parlera aussi du partage des comptes de Netflix et d'autres sujets du RGPD. Vous restez avec nous, 21h30, Aude Sulek pour l'Info Éco, et on revient pour notre débrief de l'ActuTech sur BFM Business avec Bruno, Claudia, Fred et Jean. A tout de suite.
BFM Business, l'Info Éco.
21h32 sur BFM Business, à la radio, à la télé. Merci d'être avec nous. L'info éco avec Aude Kersulek. Bonsoir Aude.
Bonsoir. À la une, l'Allemagne qui entre en récession avec l'annonce d'un deuxième trimestre consécutif de croissance négative, moins 0,3% contre 0% attendu. Et c'est surtout dû à un recul de l'industrie. Bruxelles dit oui à la fusion UBS-Crédit Suisse. C'est un accord sans condition. La Commission européenne estime que l'opération ne contrevient pas aux règles de concurrence à l'intérieur de la zone euro, et pour éviter un nouveau sauvetage à la hâte, la Suisse s'arme d'un mécanisme public de garantie de liquidité qui intervient lorsqu'une banque n'a plus les fonds suffisants pour répondre à ses obligations. Il avait été utilisé en mars dernier lors du rachat de Crédit Suisse. Dans l'actualité des entreprises, Chanel a publié ses résultats annuels, une hausse du chiffre d'affaires de 17% en données comparables à 17 milliards de dollars pour un bénéfice net de 4,6 milliards. Comme d'autres marques, Chanel observe un ralentissement des ventes aux États-Unis, l'un de ses principaux marchés, mais la progression des ventes en Chine sera suffisante pour compenser la faiblesse américaine, estime le directeur financier de Chanel. Dans l'aérien, accord scellé entre Lufthansa et l'État italien concernant la prise de participation dans la compagnie ITA, qui avait été nationalisée. L'allemand entre au capital à 41% pour un montant de 325 millions d'euros, se réservant le droit de monter à 100% du capital dans un second temps. Et enfin, Twitter envisage de quitter le code de l'Union européenne contre la désinformation. Le réseau social en aurait informé la Commission européenne sans formellement notifier sa décision. Mais depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, le personnel dédié à la lutte contre la désinformation a été en partie licencié et la direction ne semble pas coopérer à vouloir réduire les risques de propagande. Et on fait un point sur les marchés. Quatrième séance de baisse d'affilée pour l'indice parisien. Il perd 0,3%, 7229 points à moins de 30 minutes de la clôture. Le S&P et le Nasdaq s'offrent un beau rebond.
Merci beaucoup. Aude Kersulek, qui est direction maintenant la rédaction de Tech & Co. Avec ce soir Emmanuel Depio. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir François.
Première sur le plateau de Tech & Co. Tout va bien, ça va ?
Tout va bien.
Bon, on va parler en plus d'un sujet important.
Oui.
Les États-Unis qui ont dénoncé, vous le savez, une cyberattaque parrainée par la Chine. On en a parlé aujourd'hui. Ils mettent en garde contre un groupe malveillant connu sous le nom de Volt Typhoon, Emmanuel.
Exactement. Alors en effet, François, les États-Unis accusent un groupe parrainé par la Chine d'avoir secrètement infiltré des infrastructures critiques américaines. Et ils ont ensuite averti que des attaques similaires peuvent se produire dans le monde entier.
Alors de quel groupe parle-t-on ?
Eh bien, Microsoft le désigne sous le nom de Volt Typhoon, ou à la française Volt Typhon. Et donc, ce cyberacteur serait soutenu par la République populaire de Chine. Donc, d'après Microsoft, Volt Typhoon est actif depuis mi-2021. Donc, essentiellement dans l'île de Guam. Et ce n'est pas n'importe quelle île, l'île de Guam, parce qu'elle héberge une importante base militaire américaine.
Oui, d'accord. Et alors c'est important pour les États-Unis et pour ses alliés pour maintenir une bonne communication avec la Chine qui se menaçante, Emmanuel ?
Eh bien oui, tout cela, ça ne va pas arranger la situation entre la Chine et les États-Unis qui ont des relations tendues, on le sait, hein, et notamment autour de Taïwan que la Chine revendique toujours et dont les États-Unis soutiennent l'autonomie. Donc en cas d'offensive chinoise sur Taïwan, l'île de Guam pourrait être un lieu hyper important dans les deux camps. Donc pour le moment, Pékin a démenti ces allégations et a annoncé une campagne de désinformation.
Ouais, c'est un peu flou, hein, tout ça, toute cette histoire, un peu étrange.
Un peu flou, effectivement.
Merci, Emmanuel.
Merci à vous.
Claudia, qu'est-ce que tu en penses ?
Comme toi.
Oui, voilà.
Honnêtement,
très bizarre. Hein.
Oui, c'est assez flou. J'ai essayé de lire.
Il y a une telle tension aujourd'hui entre la Chine et les US qu'on ne sait pas sur quel pied danser finalement.
Oui, on ne sait pas ce qui est vrai et ce qui est faux. Et là, effectivement, les détails sont un petit peu flous.
Merci en tout cas Emmanuel, et tout de suite le retour de Tech & Co et le débrief de l'ActuTech.
BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
Votre rendez-vous avec Intel VPro. Intel VPro, bien plus qu'un processeur. Une plateforme conçue pour les héros de l'IT.
Tech & Co. Le débrief de la tech.
Le retour, si j'allume pas mon micro, ça marche moins bien, on me l'a toujours dit. Le retour de Tech & Co sur BFM Business et Bruno Guglielminetti qui se marre comme une baleine. C'est pas très sympa, Bruno, hein. Qui est avec nous en visio, Bruno, spécialiste des médias numériques, animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Ravi de débriefer l'actu avec toi, Bruno, depuis le Québec. Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business. Claudia Cohen, journaliste au Figaro. Et Jean de Chambure, consultant à JDC Advisory. Spécialiste de la tech et notamment de l'Asie et de la Chine. Un petit coup de GPD, on en parlait tout à l'heure, mais puisque Thomas Schnell nous a rejoint, on va en parler. Bonsoir Thomas.
Bonsoir François, bonsoir à tous.
Le RGPD donc qui fête ses 5 ans, l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, c'était en mi-2018, avait amené un lot de sanctions contre les organismes qui ne se plient pas à la règle européenne. Alors quel bilan, des amendes records et puis un standard international Thomas.
Oui, il faut dire qu'au total quand même le RGPD ça a rapporté 2 milliards d'euros à l'Union européenne parmi toutes les amendes qui ont été versé en 5 ans d'existence, c'est pas mal, auprès donc de ces 26 pays qui ont signé le texte, d'après un calcul de nos confrères du quotidien Le Monde. Dans le détail, on peut regarder par année, on commence à 458 000 euros en 2018, on monte à 73 millions d'euros en 2019, 171 millions, on monte à 1,1 milliard d'euros d'amendes cumulées au total sur ces années-là. On redescend un petit peu en 2022, 841 millions d'euros. L'année 2023, d'ailleurs, François devrait encore battre des records. On peut aussi faire le palmarès des amendes les plus importantes. C'est Meta qui décroche le gros lot, 1,2 milliard, c'était au début du mois en Irlande. Ensuite, Amazon, 746 millions d'euros, c'était en 2021. Instagram, Meta toujours, 405 millions d'euros. Facebook et puis WhatsApp qui accumule ses plus grosses amendes qui ont été distribuées selon la loi du RGPD. Alors le plus souvent, il faut le dire quand même, ces GAFAM font appel de ces décisions, de ces sanctions, mais derrière ces sanctions qui atteignent des records, on s'est quand même rendu compte que les entreprises se conforment de plus en plus à la loi, l'obligation d'information, la durée de conservation, les droits des personnes, voilà, ces aspects élémentaires de la protection des données sont devenus une norme reconnue au-delà même des pays signataires, qu'il s'agisse d'entreprises, d'administrations, mais aussi des individus, puisque l'application du RGPD a provoqué un petit séisme au niveau du numérique mondial. En plus des 26 pays membres de l'Union européenne, eh bien 70 pays ont engagé des lois qui protègent la vie privée numérique de leurs citoyens.
Oui, voilà, ça fait boule de neige tout ça. Merci beaucoup Thomas. Fred, on le disait, alors ce sont des chiffres mirobolants d'amende, mais on le rappelle, hein, la plupart ne sont pas payés.
En tout cas, je pense qu'une entreprise qui reçoit, comme Facebook, une amende de 1,2 milliard, même s'il ne la paie pas, même s'il va faire appel, même si ça va prendre des années, bon, il va se mettre en conformité parce que ça lui fait quand même de la mauvaise publicité. Le RGPD, 5 ans après, on peut tirer un bilan plutôt positif. Je me rappelle, il y a 5 ans, on disait la vie privée, oubliez-la, ça n'existe plus. Hein, avec Internet, les réseaux sociaux, ça n'existera plus. Bon, finalement, on s'aperçoit que la réglementation a permis de protéger ces données, d'avoir davantage accès aux informations provenant de ces réseaux sociaux. Après, voilà, c'est perfectible. D'abord, il y a une concurrence aussi entre les CNIL locales, parce que théoriquement, le RGPD, c'était un guichet unique. Hein, c'était simplement au niveau européen qu'on devait sanctionner, à savoir la CNIL irlandaise plutôt, parce que c'est là-bas que se trouvent les géants de la tech. Or, on s'aperçoit que ça se tient un peu entre les pattes. La CNIL française trouve que la CNIL irlandaise va pas assez loin. Elle sanctionne à son tour, quand elle le peut, les entreprises. Bon, voilà, c'est pas parfait, mais il y a quand même du progrès qui a été fait dernières années.
Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ce sujet. Claudia, tu voulais rajouter une chose là-dessus. Voilà, on est bon. Bruno, on en a parlé tout à l'heure. Jean de Chambure aussi. Bruno a levé la main. Quand il lève la main, c'est qu'il ne veut pas parler. C'est quand il lève le doigt, oui, mais quand il lève la main, c'est stop. On revient donc à Claudia et TikTok parce que là-dessus, tu as mené une enquête très intéressante, justement concernant l'inquiétude des industries culturelles en France concernant TikTok, parce que TikTok est partout, du cinéma à la musique. physique. Explique-nous un petit peu le but de ton enquête.
Alors déjà, j'ai signé l'enquête avec deux de mes collègues pour
bien
pour
sûr qu'on salue aussi, bien sûr.
Et voilà. Alors TikTok, c'est là, c'est cette semaine encore le partenaire du Festival de Cannes. TikTok, c'était le mois dernier le partenaire du Festival du Livre de Paris et de tous les événements importants du livre en Europe. TikTok, c'est un ami ennemi maintenant du secteur de la musique. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que il y a deux sujets sur TikTok. Il y a le premier sujet, on le sait, TikTok, c'est toujours plus de contenu, toujours plus vite, toujours plus rapidement. Ça crée une accoutumance au format court, en fait, on le sait. Et on s'est demandé comment cette accoutumance au format court pouvait venir disrupter des habitudes de consommation dans des secteurs culturels. Parce qu'il faut savoir que quand il y a eu tous les débats sur l'interdiction possible de TikTok et les méfaits que TikTok pourrait représenter, en parallèle, TikTok a fait une très grosse campagne de communication, et notamment en France, pour se revendiquer en tant qu'acteur culturel fort. Et en fait, au début, c'était l'allié de l'industrie musicale, parce qu'effectivement, ça permettait de redécouvrir des hits, etc.
Tout à fait. Et puis, parce qu'il payait en plus les droits d'auteur, etc.
Alors, il payait. Donc là, le premier point, c'est qu'en fait, l'industrie musicale commence à dire aux États-Unis, comme en France, on n'est pas assez payé par rapport à tout ce qu'on donne. Deuxième point, c'est que les gens, en fait, il y a eu une étude qui a été faite en France. Tu as un quart des nouveaux utilisateurs de TikTok qui expliquent moins consommer de la musique à côté. Parce qu'en fait, vu que sur TikTok, tu as de la musique constamment sur les vidéos, en fait, les gens ne ressentent plus le besoin d'écouter.
Ils vont moins sur Spotify, ils vont moins sur Deezer ou sur Apple Music.
Tu as ça. Donc, tu as ces changements d'habitude et tu as aussi TikTok qui, comme tout géant de la tech, réfléchit à qu'est-ce que je fais de toutes les données que j'ai sur les habitudes de consommation des gens dans la musique, dans le livre. Et donc, tu as TikTok, on s'aperçoit, qui commence à draguer les chanteurs, les interprètes, en leur disant... Alors, l'année dernière, pour être très précise, ils ont lancé un service qui s'appelle SoundOn. Et là, ils commencent à draguer certains artistes aux États-Unis en leur disant, venez chez nous, on vous signe au même titre qu'une major et on diffuse en exclusivité vos contenus. Donc, une mauvaise nouvelle pour les majors sur l'industrie du livre. Alors, on a un peu plus de mal à voir comment on peut consommer un livre de façon accélérée par rapport à ce qui se fait dans la musique. Mais ce qu'on se rend compte aussi, et ce qu'on a vu dans notre enquête, et on a eu accès aussi au patron Europe de TikTok, c'est que TikTok, déjà au Royaume-Uni, a un service de vente de livres et réfléchit aux États-Unis à lancer un service d'auto-édition au même titre d'Amazon. Et donc, à aller draguer des auteurs en leur disant, attendez, vous n'avez pas besoin de passer par une vraie maison d'édition, vous n'avez pas besoin de passer par Amazon. Si vous venez chez vous, on vous signe, on vous publie et on mettra en avant les livres qu'on a signés sur notre plateforme. Donc en fait, l'allié d'aujourd'hui pour les industries culturelles pourrait devenir et commence à devenir le concurrent de demain pour ces industries.
Voilà, passionnant à retrouver donc dans le Figaro, j'imagine, sur le web.
C'est une stratégie très intéressante.
Bien sûr.
Moi, je serais patron de TikTok, je ferais exactement la même. Enfin, s'ils avaient leur talent. Ils font du lobbying auprès d'industries culturelles. TikTok avait quand même une image assez bas de gamme, il faut dire. C'est le dernier réseau social arrivé. C'était bas de gamme, c'était la petite vidéo qu'on fait. C'était ça avait une image assez bas de gamme. Là, ils nouent des partenariats avec le Festival de Cannes, quand même. Hein, je veux dire, c'est la messe du cinéma mondial avec le monde de l'édition. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font la promotion de livres aussi sur TikTok, hein, c'est ce que vous expliquez dans l'article, avec le tag BookTok, me semble-t-il.
135 milliards de vues.
Voilà, 135 milliards de vues, c'est-à-dire ce sont des utilisateurs de TikTok qui disent, moi, j'ai lu ce livre-là, ça m'a plu, ça m'a ému, ça m'a fait rire, et ça fait vendre des livres derrière.
C'est
donc
ça.
TikTok,
ça, c'est positif,
bien,
quand même,
est présent
enfin,
dans le monde culturel, fait vendre des livres, fait écouter de la musique. Ils auraient tort de ne pas le mettre en avant.
Le point de départ de TikTok, entreprise chinoise qui porte un autre nom, c'est User Generated Content. C'est vraiment, effectivement, d'abord avec Musical.ly en Chine, des contenus d'utilisateurs, quoi. Et c'est vrai que sur les livres, par exemple, je me suis amusé à taper Herman S. et j'ai vu une critique de Siddhartha sur TikTok où le type était enthousiaste, etc. Il parlait ça. C'est extrêmement percutant. Et les chiffres que Claudia donne sont impressionnants, les partenariats aussi. Donc on voit que s'il y a un peu, disons, la sève des utilisateurs, le concept native qui est très claire, plus le volume, bon, c'est quand même de nature à pas être que du... C'est pas juste un plan média, quoi. C'est vraiment une stratégie de contenu avec une puissance d'audience qui peut profondément bouleverser le secteur culturel. Vous comprendre qu'ici, il y a quelque
chose. Ouais, Bruno, comment tu analyses, toi, depuis le Québec, cette montée en gamme de TikTok, hein, en quelque sorte, avec voilà, des partenariats prestigieux, cette épaisseur culturelle qui est ajoutée, voilà, un petit peu plus de matière grise?
Ben, c'est sûr qu'il y a un intérêt pour TikTok de devenir un incontournable, un peu comme YouTube l'a été dans le domaine de la vidéo. Et d'ailleurs, on voit, hein, quand on regarde de près l'utilisation que les gens en font, les 35 ans et moins maintenant font la navette entre YouTube et TikTok pour s'informer et se divertir. Alors, c'est vous dire la place que ça a pris, parce qu'ils sont plus nécessairement sur Facebook et Instagram. Alors, ils ont une place et dans le contexte nord-américain, ben évidemment, pour TikTok, c'est essentiel de montrer son importance en tissant des liens, des partenariats et pour justement mettre plus de pression sur les élus américains qui veulent, eux, que TikTok disparaisse du portrait.
On va revenir dans un instant, messieurs, dames, avec notre dernière partie de ce débrief de l'actu tech et évoquer quand même le sujet de la semaine, le partage des comptes de Netflix qui, voilà, ça y est, c'est là, on a signé à la fin de la récré. On en parle dans une minute avec Claudia, Bruno, Jean et Fred. À tout de suite.
Tech & Co, le débrief de la tech.
Le débrief de l'ActuTech avec ce soir Claudia Cohen, journaliste au Figaro, Jean de Chambure, consultant chez JDC Advisory au bureau des éveilleurs, Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business, et à quelques milliers de kilomètres de nous, Bruno Guglielminetti, spécialiste des médias numériques au Québec, animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Alors, la fin du partage de comptes chez Netflix, c'est la pagaille. Tout le monde nous pose la question pendant la pub. Effectivement, on en parlait. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas toutes les réponses parce que c'est assez complexe, cette histoire-là. Mais une chose est sûre, c'est que Netflix signe la fin de la récré. Ça fait un moment qu'ils nous avaient prévenu, hein, quand même. Mais ça y est. Voilà, ça fait un moment. Et mardi prochain, ça y est, la sanction tombe. En théorie, on ne pourra plus partager ses comptes. Maintenant, Claudia, Jean et Fred, il faut savoir ce que ça veut dire parce que c'est pas très clair, hein, tout ça. Qui y va ?
Effectivement. Non, alors, a priori, ce qu'on a compris, mais j'accepterai d'être contredit, il faudra déclarer un foyer, hein, sur son compte, hein, dire voilà, mon foyer, c'est celui-ci. Donc, théoriquement, je ne peux pas utiliser Netflix si je suis à 200, 300 km de chez moi. Ça, c'est en théorie. Parce que dans les faits, il y aura quand même.
Des exceptions.
Des exceptions. On pourra effectivement l'utiliser quand on part en voyage, quand on part 3 jours, 4 jours de son domicile. En revanche, ce qui semble clair, c'est qu'il faudra revenir de temps en temps au foyer principal pour connecter l'appareil sur lequel on utilise Netflix au réseau Internet du foyer principal. Donc voilà, il va falloir revenir et prouver que j'habite bien, au moins à temps partiel, dans ce foyer. Et si j'ai prêté mes codes à des amis, eh bien, je pourrais continuer à leur prêter des codes. En revanche, je vais passer à la caisse, parce que chaque utilisateur qui utilisera mon compte Netflix sans être abonné lui-même, eh bien, je devrais payer 6 euros de plus. Évidemment, c'est très dissuasif. Et a priori, voilà, bah, je vais demander à mes amis de ne plus utiliser mon Netflix.
Bruno, c'est la pagaille au Québec avec le partage de comptes?
Ben, nous, il faut savoir qu'on est déjà passé par là.
C'est vrai que vous avez testé.
Et on a survécu. Et j'ai beaucoup d'amis qui ont laissé tomber leur abonnement. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'Espagne qui a mal réagi. Mais au Canada, ça n'a pas tellement mieux réagi. Mais on en a peu parlé. Mais effectivement, et ce qui est assez surprenant, donc, c'est que quand le couperet va tomber, vous allez voir, si vous êtes un abonné Netflix, vous allez vous brancher comme d'habitude. Et là, on va vous demander de vous identifier. Et c'est à partir de ce moment-là, avec votre identification personnelle comme utilisateur principal, où vous allez déterminer d'où part le service. Et par la suite, ceux qui utilisaient des accès, ben là, eux vont avoir de la difficulté à se brancher parce qu'ils vont devoir s'identifier. Et c'est là qu'on va les identifier comme étant des usurpateurs de comptes. Et c'est là où le compteur va commencer à fonctionner et demander à la personne qui a le compte principal: est-ce que vous voulez payer pour que la personne ait accès à ce service-là? Et donc, ben, par la suite, c'est à vous de décider ou pas.
Alors, le truc, c'est que Netflix a fait sa sortie, sa petite calculette, et ils se sont rendus compte qu'il y avait 100 millions d'abonnements en fait qui partaient en fumée à cause de ce partage de comptes sauvage, j'ai envie de dire. Enfin, sauvage. C'est eux qui l'ont bien voulu aussi. Au lancement, ils ont communiqué là-dessus, etc. Ouais. Et donc, ils se disent aujourd'hui, on a besoin d'argent, donc on fait des offres avec de la pub. Voilà, il faut financer nos 17 milliards de production. Donc, bah, il faut mettre un peu le holà là-dessus.
Ouais.
Jean et après Claudia.
On dit que c'est la fin de la récré pour les utilisateurs. C'est aussi un petit peu la fin de la récréation pour Netflix, parce que quand on regarde aujourd'hui les chiffres de participation, d'arrivée en salle de cinéma, et c'est en train de remonter. Je veux dire, l'effet confinement mondial qui a beaucoup profité à Netflix est complètement terminé. Donc ils reviennent probablement à des ratios plus raisonnables, ce qui explique qu'ils soient plus sévères, ils l'avaient anticipé, auprès des utilisateurs. Alors après, moi je sais pas, en France on a quelque chose qui s'appelle la fête des voisins. Alors est-ce que ce serait une bonne idée pour la fête des voisins, partage de compte Netflix? Évidemment, c'est pas forcément la chose à faire, mais il y aura peut-être des petites solidarités comme ça entre voisinage. Ah bah tiens, puisque tu n'es pas très loin en bas, est-ce que tu veux pas un peu de Netflix?
C'est vrai, Claudia, la question qu'on peut se poser, est-ce que l'impopularité de cette décision va pas coûter cher finalement à Netflix?
Moi je pense pas, comme tu disais, ils ont dû sortir la calculette pour les quelques millions d'abonnés qui vont perdre. Il va y avoir de l'autre côté les plus 6 euros fois X nombre de personnes. Donc je pense pas, je pense que c'est un calcul assez raisonné.
C'est pas ce que disait Bruno visiblement, parce que au Québec c'est déjà cette mesure a déjà été prise. Bruno, et tu sens qu'il y a plein de gens autour de toi qui se sont désabonnés, c'est ça?
Grandeur du Canada, et ça a été la même chose en Espagne, qui est un marché test. Et d'ailleurs, ça me surprend même qu'on ait poursuivi du côté Netflix en France la processus, parce que récemment, je lisais dans les journaux américains que Netflix était en train de repenser son approche stratégique pour aller plus mollement avec l'application de cette nouvelle réglementation, voyant le tsunami là, au niveau de la réaction des consommateurs.
Peut-être qu'ils sont en période de test, finalement, ils sont en période de test, et voir dans les différents pays où ça va passer, quels vont être les effets. Ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on a vu ça au Canada et en Espagne que forcément les autres pays vont répliquer de la même façon.
Ouais. Après, bon, c'est vrai qu'au-delà de cette décision qui est un peu anxiogène quand même, hein, il y a aussi l'incompréhension des règles. Tu les as bien expliquées tout à l'heure. Mais bon, t'as une maison secondaire, par exemple, t'as une télé qui est accrochée au mur. Tu vas pas prendre ta télé et l'emmener chez toi une fois par mois pour valider ton foyer, tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs bizarres finalement. On sait pas trop ce qui va se passer.
C'est quand même l'internet partout. C'est voilà. C'est
aujourd'hui,
on cause aussi ça.
Enfin voilà.
C'est quand même un pari assez risqué, parce que les chiffres en Espagne, le nombre de désabonnements, on parle de 1 million de personnes. Hein, on parle pas de 10, 15 000. En tout cas, voilà, ça paraît être de très gros chiffres. Alors je sais pas combien d'abonnés en Espagne. Sans doute entre 5 et 10 millions, un peu moins qu'en France peut-être. Ouais. Mais 1 million de personnes, c'est quand même pas mal. Netflix aujourd'hui est en position fortement concurrentielle. Il a Disney Plus en face, qui est moins cher. Il a Amazon Prime en face, qui est gratuit, sans compter le nombre de services des Paramount, qui arrivent. Donc, est-ce que la marque Netflix, est-ce que l'offre Netflix est aujourd'hui assez forte dans cet environnement concurrentiel?
Pour encaisser, en fait, justement.
Pour encaisser ça, pour faire payer les gens. Netflix a beaucoup augmenté ses prix aussi. On est à 17 euros pour l'abonnement 4 écrans. Donc, 17 euros, plus 6 euros pour mon copain qui utilise Netflix, plus 6 euros encore pour ma copine qui l'utilise aussi. On est à 30 euros. On commence à être sur des prix très élevés pour une offre qui se distingue finalement de moins en moins de celle d'Amazon Prime.
Qu'il soit très très fort sur le contenu, quoi.
Oui.
On arrête là, puisque on arrive quasiment à 22h. Merci Bruno d'avoir été avec nous depuis le Québec. Bruno Guglielminetti, donc voilà, qu'on accueille toujours avec plaisir dans Tech & Co. Merci à Claudia Cohen.
Merci.
Journaliste au Figaro. Fred Bianchi, à très vite.
À bientôt.
Sur BFM Business et sur BFM TV. Et Jean Chambure, merci beaucoup à toi. À très vite aussi. Très belle soirée sur BFM Business. Et je vous rappelle donc notre rendez-vous exceptionnel demain, 21h30, pour la 5e cérémonie de remise des prix des Tech for Good Awards. J'aurai plaisir de vous présenter cette soirée avec Frédéric Mazzella et notre invité prestigieux, notre parrain, c'est Bertrand Picard. À demain donc, et bonne soirée.